Découvrez MyMatch en exclusivité sur Winamax. Créez votre pari sur mesure en choisissant plusieurs sélections sur un même match de football et obtenez votre cote personnalisée. Buteur, score exact, nombre de buts marqués. Avec MyMatch, donnez une cote à votre intuition.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
Simon Dutin.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes au bon endroit. RMC, le temple du sport à la radio, pour ne rien manquer de ce qui fait l'événement chaque week-end. Intégral Foot en direct pendant deux heures pour faire monter la température jusqu'au coup d'envoi de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Comme d'habitude, vous n'en manquerez pas une miette sur notre antenne multiplex à suivre à partir de 21h dans l'After Live autour de Jean-Louis Tour. De l'enjeu, du suspense, en haut, en bas du classement, la course à l'Europe, la lutte pour le maintien. On en salive par avance. Nos commentateurs nous attendent sur les 9 stades de Ligue 1. On va se projeter avec eux sur les rencontres du soir avant le grand bazar du multi-Ligue 1. Tout ça en compagnie de Roland Courbis, notre légendaire consultant, qui s'installe en ce moment même dans le studio RMC. On vous attend, bien entendu, nombreuses, nombreux au 32-16. Venez partager à l'antenne vos craintes, vos doutes, vos espoirs, vos rêves avant cette 33e journée. L'application Direct Studio, le compte X de RMC Sport, vous connaissez tout ça par cœur, vous n'hésitez pas à en profiter. Salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
Excité avant cette avant-dernière journée, on a traditionnellement début du spectacle, des retournements de situation.
Des matchs passionnants, très compliqués de faire des pronostics, mais ça c'est pas nouveau que c'est compliqué de faire des pronostics, mais bon, il y a quand même des matchs qui sont vraiment, vraiment difficiles à lire.
On veut du début du spectacle et des rebondissements, je le disais, la course à l'Europe, la lutte pour le maintien. Vous avez choisi RMC, vous avez bien fait. Intégral Foot démarre tout de suite. Et avant de se rendre sur les stades pour commencer notre focus, notamment sur la course à la Ligue des Champions, on retrouve Morgan Maury qui a suivi pour nous la 34e et dernière journée de cette saison de Ligue 2. Salut Morgan.
Bonjour à tous.
Petit récapitulatif, s'est passé des choses cet après-midi.
Lorient est officiellement champion de France de Ligue 2. L'équipe dirigée par Olivier Pantaloni a fait le travail face à Martigues. Succès 5-1 sur sa pelouse. Un résultat qui envoie Martigues directement en national sans passer par le barrage. Vous l'avez compris, si Lorient est champion, c'est que le PFC est deuxième. Succès 2-0 sur son terrain face à l'HC Ajaccio sous les yeux de Jürgen Klopp. C'est la fête qui est en train de se préparer. Envahissement de terrain. Mais une fête est prévue à Charletti. Pour les barragistes, seuls ceux qui peuvent encore rêver de la Ligue 1. Metz est troisième. Metz s'est imposé 3-2 sur la pelouse de Laval. Metz affrontera le vainqueur de Dunkerque, Guingamp. Dunkerque a fait match nul au Red Star, un partout, et Guingamp l'a emporté 3-1 sur la pelouse de Pau. Donc barrage Dunkerque-Guingamp le 14 mai, et le vainqueur affrontera le 17 mai Metz pour une place peut-être en Ligue 1, ensuite face à l'avant, avant-dernier de la Ligue 1. Et en bas de tableau, le barragiste face au 3ème de National, ce sera Clermont qui est allé arracher un nul, un partout sur la pelouse de Rodez. Sur les derniers terrains, les derniers résultats, c'est Annecy qui s'impose 3-1 face à Grenoble. Bastia domine Caen, déjà relégué, 2-1. Et 3 l'emporte sur son terrain face à Amiens, 1-0.
Merci beaucoup Morgan pour ce point complet, la 34e et dernière journée donc d'un championnat de Ligue 2 passionnant. Reste à savoir qui accompagnera Lorient et le Paris FC en Ligue 1 la saison prochaine. Merci beaucoup Morgan. Comme promis, on démarre cette Intégral Foot avec un focus sur la course à l'Europe et plus précisément la Ligue des Champions, hein, avec l'équipe qui a peut-être le plus à perdre lors de ces deux dernières journées. C'est l'OM, évidemment, avec Van Halen, vous l'avez reconnu en fond, l'hymne du club marseillais, l'actuel dauphin du PSG, qui a passé 30 des 32 journées à la deuxième place du classement. Marseille qui se déplace sur la pelouse du Havre, 16e actuel barragiste à la lutte donc pour le maintien. On en parle avec Florent Germain, notre correspondant RMC Sport à Marseille. Salut Flo.
Salut Simon, salut à tous, salut coach.
Salut Flo.
Flo, je le rappelais à l'instant, le Havre est barragiste, joue donc sa survie en Ligue 1. Ça peut sentir le match piège au stade Océane. On en est évidemment conscient côté marseillais. Nos confrères de la Provence titraient « Éviter le trou normand » aujourd'hui.
C'est ce que disait également Roberto De Zerbi hier au micro quand on l'a interrogé sur ce match au Havre. Il a eu un petit message d'alerte envers ses troupes en disant qu'il fallait évidemment faire preuve d'humilité et surtout ne pas se tromper. En gros, si ces joueurs pensent que ce sera plus facile au Havre qu'à Lille, on fait fausse route. C'est ce qu'a dit Roberto De Zerbi. Donc voilà, il sait que le Havre a fait un beau coup à Auxerre lors du dernier match, qu'ils avaient tenu en échec l'AS Monaco. Ouais. Alors oui, il y a deux lectures par rapport au classement de Ligue 1. On peut effectivement se dire que Marseille a beaucoup à perdre. Tu as raison par rapport au fait qu'ils sont restés deuxième quasiment toute la saison. Après, ils ont les cartes en main dans ce classement si serré dans la lutte pour le podium. Avoir les cartes en main, c'est déjà un luxe. Et donc Marseille sait que s'il y a deux victoires ce soir et contre Rennes, eh bien la deuxième place sera assurée. Même si il est fort probable que quel que soit le résultat, même en cas de succès ce soir, qu'il faille terminer le travail lors du dernier match contre Rennes, ou alors ce serait vraiment des circonstances très très favorables pour l'OM lors des autres résultats, lors des autres matchs.
Bien entendu, ça commence d'abord, tu l'as dit, par un bon résultat ce soir sur la pelouse du Havre, qui je crois est la pire équipe de Ligue 1 à domicile cette saison. Tu l'évoquais à l'instant, Roberto De Zerbi hier en conférence de presse.
La partie de demain, le Havre.
Le match de demain au Havre est difficile. Si nous gagnons demain soir, nous pourrons parler d'un autre match. Mais d'abord, c'est très difficile parce que c'est une équipe qui a pris des points à Monaco, qui a gagné à Auxerre et qui a été vivante dans les derniers matchs. Je crois qu'ils joueront avec moins d'enjeux que nous parce qu'ils ont probablement déjà l'avantage sur Saint-Etienne. Mais il est certain que ce sera une bataille. C'est pour ça que je parle d'humilité. Parce que si on pense que c'est plus facile que Lille, on est complètement à côté de la plaque.
Si si pensa che sia più facile di Lille, siamo fuori strada.
Voilà, ne pas oublier l'essentiel. Et notamment l'humilité, supporter marseillais, et le 32-16 évidemment. Venez nous partager vos sensations, comment vous sentez cette OM qui ne veut pas trébucher, l'OM deuxième. Oui, Roland.
Et la composition qui démarre avec la blessure de Konogbia.
La tendance, ce serait Cornelius, donc à vérifier dès qu'on a les compos, dès que les collègues auront les compos du côté du Havre. Mais on partait sur une défense évidemment à 4, quasiment les mêmes qu'en fin de match contre Lille, avec Rongier titulaire, puisque Benacer en plus est forfait, ouais. Il souffre d'un adducteur. Donc la logique sur une défense à 4 pour la charnière, ce serait Cornelius et Balerdi.
Coach, lors de ces dernières journées, on n'aime pas, j'imagine, affronter une équipe qui joue le maintien.
Ben, on n'aime pas. Disons que si on n'aime pas rencontrer une équipe qui joue le maintien, on n'aimerait pas non plus rencontrer Monaco qui joue le donc, si tu veux, il faut regarder un petit peu les choses en face. Il y a un calendrier qui donne pour l'OM le Havre au Havre. Le Havre qui est quand même... qui puisse avoir fait un parcours moyen, d'accord, mais sur les 3-4 dernières journées, je les trouve quand même pas mal du tout. Mais bon, c'est quand même pas Lille. Et donc après, à domicile, rencontrer Rennes pour justement se qualifier définitivement, si c'est pas qualifié définitivement dès ce soir, ça ferait quand même une très très belle soirée.
En effet, et évidemment, une victoire pour les Olympiens. Et tout le monde sera content parmi les supporters marseillais. C'est Christophe Lécuyer qui commentera cette rencontre. Valentin Germain est aux abords du stade pour recueillir les réactions des, je crois, 1000 supporters marseillais.
Exactement, exactement. Et beaucoup qui sont à Marseille et qui écouteront le multiplex ou qui seront au Vélodrome pour prendre une petite parenthèse rugby ce Toulon-Toulouse. RCT Stade Toulousain au Vélodrome. Avec forcément, donc chez les amoureux de rugby qui aiment aussi l'OM, un intérêt prononcé sur ce résultat de l'OM si important au Havre.
C'est emmerdant quand même d'avoir mis, enfin je sais pas, peut-être il y a des choses qui m'échappent, mais à la même heure le Toulon-Toulouse au stade Vélodrome et la même heure que le Havre-OM, bon, pourquoi pas.
Ah, en tout cas, c'était prévu comme ça de longue date.
Voilà, parce que d'accord, mais ça ne s'improvise pas, les délocalisations du RCT au Vélodrome.
On peut être stupide de longue date.
Bon, le message.
Non, mais c'est vrai qu'on savait que la 33e journée se jouerait, en tout cas le samedi soir, puisque ce sont tous les matchs sont tous en même temps. Donc effectivement, il y avait peut-être moyen d'ajuster ça. Mais après, ça voilà, ça fait. Faut toujours une contre-soirée. Tout ça, c'est très important qu'il y ait une contre-programmation, deux salles, deux ambiances. Donc ceux qui veulent aller se faire une petite page rugby, ils seront au Vélodrome. Et puis ils auront le multiplex dans les oreilles.
Et puis il pourrait y avoir le vélodrome avec un grand écran aussi, tu vois.
Avec le foot, un grand écran. Évidemment, on a besoin des écrans pour, parce qu'au rugby, les spectateurs ont le droit de revoir les actions un petit peu litigieuses arbitrées par la cellule vidéo. Avant d'accueillir Loïc, supporter marseillais, qui a fait le 32-16, Flo, un mot sur l'humeur, l'ambiance, l'atmosphère à Marseille cette semaine. On a beaucoup parlé de la polémique sur l'absence de joueurs marseillais pour les nommer trophées UNFP. Même chose pour l'absence de Dezerbi en tant qu'entraîneur. L'atmosphère dans la ville, sur les terrasses, est-ce qu'on est confiant? J'imagine qu'on n'envisage pas autre chose qu'une victoire ce soir de l'OM au Havre.
Bon, écoute, oui, disons que le visage de l'OM à Lille et la maîtrise affichée, oui. Tout ça a rassuré quand même les supporters olympiens qui étaient plutôt inquiets, Oui, ça faisait, il y avait une petite période, une petite séquence de deux mois où l'OM, d'ailleurs Marseille n'a pas gagné extérieur depuis quasiment trois mois, donc c'est bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais on a le sentiment que à l'aube du sprint final et puis ces fameuses escapades à Rome, ces deux séquences de ritiro, là on fait du bien au groupe, il y a plus de solidarité, donc oui, moi je sens des supporters de l'OM qui pensent pour la plupart que ça va le faire, mais qui restent comme Roberto De Zerbi, hein, dans ce qu'on a entendu, qui restent assez méfiants, parce que quand tu regardes le classement, ça reste très serré. L'OM n'est pas à l'abri d'un faux pas ce soir qui remettrait tout en cause, hein, donc il y a malgré tout pas mal de prudence, et le sentiment général, honnêtement, c'est de se dire à Marseille que si l'OM avait fait le boulot sérieusement à deux journées de la fin, il devrait pas en être là à craindre un faux pas, un match piège au Havre. Normalement, la deuxième place avec l'effectif, avec le début de saison qui était celui des Marseillais, tout ça aurait dû être plié, bouclé, emballé.
La petite trentaine de matchs qu'ont joué les joueurs de l'OM depuis une dizaine de mois, donc c'est sûr, cette élimination en Coupe de France qui aussi, ne les a pas fait fatiguer. C'est vrai que bon, on aurait vraiment, vraiment de gros, gros regrets. Donc, je touche du bois pendant que je te parle.
Oui, même
exactement.
Si.
Exactement. Donc, optimisme, mais malgré tout, cette sensation que la saison a tellement été chaotique par moments, surtout sur la fin, qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc, honnêtement, je crois que les supporters marseillais, ils ont envie que cette saison se termine, que l'OMI soit sur ce podium et puisse envisager la saison prochaine avec un peu plus de sérénité. Là, je te parle des supporters. Imaginons même pas l'état d'esprit des dirigeants qui, eux, ont la vraie pression aussi. Financière de l'obligation de se qualifier dans le panorama actuel du foot français. Il faut que ça passe pour Marseille, parce que l'OM n'a pas le choix et doit voir la Ligue des Champions.
Optimisme mais vigilance, ou vigilance mais optimisme. Exactement. Voilà, du côté de l'OM qui se déplace sur la pelouse du Havre ce soir.
La deuxième et troisième place, pour moi, c'est la même chose. Ce qui est emmerdant, c'est la quatrième.
Ah oui.
Ça te coupe toute ton intersaison, ton
La quatrième sur un échec, hein, n'ayant pas parlé.
Je suis d'accord avec toi une fois de plus.
Quand on l'a rappelé tous les deux, Flo, hein, quand on a passé autant de temps à la place de Dauphin, de deuxième du classement, en effet, la quatrième, ce serait terrible pour les Marseillais à qui il reste de rencontres à disputer. Merci beaucoup, Flo, d'être passé par l'intégrale foot et à très vite, évidemment, sur l'antenne de RMC. On va poser la question à Loïc, supporter marseillais qui a fait le 32-16. Bonjour Loïc, bienvenue sur RMC.
Salut à tous, bonsoir.
Salut Loïc.
Loïc, fébrile, confiant, optimiste, vigilant, avant cette rencontre
à soir. confiant mais mesuré. Dans le sens où on a le destin entre nos pieds, à défaut de l'avoir entre nos mains. Si on est appliqué, sérieux et extrêmement combatif, parce qu'on va vraiment, à mon avis, se faire rentrer dedans par les Havrais dès le coup d'envoi, dès 21h01, ils vont vraiment nous rentrer dedans, puisque eux vont vraiment jouer leur survie. Et nous, on joue la qualification en Ligue des Champions, qui aurait déjà dû être acquise, comme l'a dit Flo et le coach il y a quelques instants. Il faut du sérieux, de l'application. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est l'OM. Comme je dis à chaque fois, notre plus gros ennemi, c'est nous-mêmes. Dès lors qu'on va se commencer à jouer un peu à la baballe.
C'est vrai, malheureusement.
Et être moins sérieux, c'est nous qui allons déjouer. Dès lors qu'on marque un but, généralement, on commence à déjouer. Donc, on recule. Et comme on a un bloc, enfin, on ne fait pas de recul frein. Quand on défend, on court vite vers notre surface de réparation. Donc, c'est mes petites compétences d'entraîneur. Hein,
tu penses qu'on est assez solide avec une organisation à deux arrières centraux?
Ah oui, oui, bien plus que quand on joue à 3 derrière, puisqu'on n'a pas des joueurs faits pour jouer à 3 derrière. Hein.
Ok.
Et puis, mais bon, le point positif, c'est Rongier qui revient à 6.
Si, justement, ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'après, tu sais, les passionnés qui développent des idées, c'est sûr que c'est compliqué de savoir qui a raison. Donc, ça voudrait dire que pendant toute cette période où nous avons joué à 3, la meilleure solution, c'était à 2. Ben, pourquoi pas, hein. Attends, après, il y a des choses qui m'échappent, hein, mais bon, c'est pas grave.
Ça dépend de l'adversité que tu as en face, du schéma tactique. Moi, il y a des fois, vraiment, je comprends pas ce focus et de vouloir faire ressortir le bloc équipe adverse par l'axe, quand on a des joueurs de côté qui sont aussi mobiles que des cônes de la DDE. Je m'explique que Luis Enrique, qui a des qualité, hein, on ne va pas se mentir ni le mettre à la Garonne, hein, le mec, hein, mais il faut qu'il varie. Parfois, je trouve qu'on manque d'intelligence tactique et d'intelligence de jeu. Tu vois, le flair, on n'est pas des joueurs de PlayStation, quoi. À un moment donné, le ballon, c'est de l'adaptation, le foot, c'est un sport liquide, donc adapte-toi à la séquence, au schéma de l'équipe adverse, à la. Quand ils se réorganisent, tu vois, quand ils vont passer de 4 à 3 derrière ou un milieu à 5, eh bien, je sais pas, est-ce qu'il y en a pas des joueurs qui ont la capacité, l'intellect suffisant pour pouvoir se dire, ben, bon, ok, l'axe est bouché, on va passer sur les côtés sont bouchés, on va passer par l'axe.
En tout cas,
le prochain ballon, il va être pris par 4 types, eh bien, ça veut dire qu'il y a 2 autres types marseillais qui vont être disponibles, donc on peut passer par eux. Enfin, tu vois, de l'adaptation.
Ouais. Moi, sur le dernier match à Lille, j'étais agréablement surpris et très content du match de l'OM, même si après, bon, allez, il y a cette erreur qui, malheureusement, est une erreur qui fait perdre 2 points. Et donc, je vais regarder attentivement maintenant si l'OM est capable de refaire ce même match contre le Havre, qui est quand même moins bon que Lille. Mais moins bon, je ne sais pas ce que ça veut dire et pas dire, parce que le Havre ce soir motivé comme si c'était un match de coupe, c'est peut-être ce Havre-là que nous allons avoir.
Et évidemment, le Havre, ouais, barragiste, 16e, qui joue, donc sa survie en Ligue 1. On le disait, c'est pas peut-être pas la même façon d'appréhender la rencontre lorsque on affronte une équipe qui lutte pour ne pas descendre, plutôt qu'une équipe qui lutte pour nous dépasser dans la course à l'Europe. Merci beaucoup, Loïc,
d'être passé par AMC. Ouais. Juste un dernier truc, un dernier focus. Quand on parlait d'intelligence de jeu, on va voir si, à un moment donné, un 6 mètres, on va les jouer court toute la partie. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas mettre un 6 mètres sur le milieu côté droit ou le milieu côté gauche pour donner de l'air, pour changer un peu, tu vois, s'adapter.
Ben ne me parle pas de cette nouvelle époque. Oui. Donc cette nouvelle époque, je suis totalement contre. Mais ça veut pas dire que parce que je suis contre que j'ai raison. Mais donc ne me parle pas de ces relances au pied. Quand en plus l'adversaire a eu le temps de se replacer, ça m'angoisse, ça m'énerve et pour moi c'est insupportable.
Un bon dégageau là, hein, à 80 mètres, il aime bien ça le coach. Ça, au moins on est tranquille. Merci beaucoup Loïc d'être venu partager tes espoirs, hein, ton optimisme avant cette rencontre et ta vigilance, tu l'as rappelé. Ça a papoté un petit peu tactique avec le coach, ce lien entre vous et nos experts, c'est la promesse de RMC et vous faites bien d'en profiter. On poursuit notre focus sur la course à l'Europe dans un instant, mais vous le savez, RMC a les yeux et les oreilles partout, on surveille le retour aux affaires de Yannick Sinner, l'Italien, chez lui au Masters 1000 de Rome. Il a purgé une petite suspension de 3 mois pour dopage. Il affronte Mariano Navone sous les yeux d'Eric Salio. Ciao ragazzo.
Ciao ragazzi. Écoutez, je suis un privilégié parce que j'ai réussi à monter tout en haut du central, d'installer mon petit matériel et je peux vous faire ce direct. Donc, avec en contrebas, donc Yannick Sinner. Il y a eu une ovation monstre, vous en doutez. Lors de son entrée sur le court et le Marc Maury local, il a le sens de la formule parce que il le présente. Il notre Yannick, tu vois, hein, tout dans la nuance. Et là, c'était un beau moment de tennis. La partie a débuté depuis 10 minutes. Il y a un jeu partout entre les deux joueurs. Il est tout en noir, mais le stade est plein, évidemment. Il y a beaucoup d'orange, parce que vous savez qu'il est rouquin, donc il y a une station, les Carota Boys, qui s'est créée. Et j'ai l'impression que ça fait beaucoup des bulles dans les tribunes du Foro Teleco. Et Roland, sache que j'aperçois le Stadio Olimpico, où se déroule actuellement le match entre la Lazio et la Juventus. Mais là, je peux pas voir le score, hein. Je peux voir ce qui se passe sur la pelouse, hein. Mais bon. Okay. C'est là qu'on voit que Rome est un peu au centre du monde actuellement.
Bon, tant que tu surveilles pour nous le score de Sinner face à ce Mariano Navone, ça devrait passer tranquille, hein, j'imagine.
Bah, toute la question est de savoir comment il a digéré ces 3 mois de suspension. Il va manquer d'automatisme, ou alors sinon je comprends rien au tennis. En tout cas, il y a un jeu partout et Navone mène 0-15 sur le service du numéro mondial.
Ouais, peut-être que les gens ont plus le sourire autour de toi qu'au Stadio Olimpico où la Lazio est actuellement menée 1-0 par la Juventus Turin après 1 heure de jeu. Merci beaucoup Eric, on fera un petit point régulier avec
Salut
toi
Eric.
Sur le retour de Yannick Sinner donc au Masters 1000 de Rome. Vous ne bougez pas, Roland Courbis est en studio, l'intégral foot pour faire monter la température avant la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. On poursuit dans quelques secondes à peine notre focus sur la course à l'Europe. Vous ne bougez pas.
RMC, intégral foot.
Simon Dutin.
C'est soir de multiplex sur RMC, 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, un championnat dont vous n'avez pas manqué une miette cette saison sur RMC. Le multiplex, les 9 matchs en direct en intégralité à suivre à partir de 21h sur RMC. D'ici là, on fait monter la température, on fait le tour des stades en compagnie de coach Courbis, Roland qui nous accompagne jusqu'à 21h. Un petit rappel avant ça, on disputait la dernière journée du championnat de Ligue 2, on en sait un petit peu plus. C'est Lorient qui remporte pour la deuxième fois de son histoire le titre de champion de Ligue 2, c'est la fête au Moustoir. Succès 5-1 face à une équipe de Martigues qui est reléguée directement en National. Metz 3e, Dunkerque 4e affrontera Guingamp en play-off. Le vainqueur de cette affiche donc jouera face au FC Metz. Vous avez tout suivi sur RMC, oui, Roland,
Je suis très content de voir cette équipe de Lorient là, faire cette saison et notamment pour Pantalone qui j'ai eu le plaisir de l'avoir comme adjoint quand nous avions été champion de France de deuxième division avec Ajaccio. Et là, cette saison, elle est tout simplement extraordinaire. Donc bravo Lorient, bravo tous les joueurs, les dirigeants et Pantalone que j'adore.
Et c'est la preuve, si besoin en était, pour quelques sceptiques, que en effet Pantalone est capable d'exporter son talent d'entraîneur ailleurs que en Corse. Et en effet, Lorient a enchanté tous les amoureux de ballon cette saison. Lorient donc promu en Ligue 1 après le deuxième titre de champion de Ligue 2 de son histoire. Avant de poursuivre notre focus sur la course à l'Europe et cette 33e journée de Ligue 1, je vous rappelle également que c'est week-end de Grand Prix de France MotoGP sur le circuit Bugatti du Mans où RMC délocalise ce dimanche une partie de son antenne. Avant la course demain, c'est Marc Marquez sur sa Ducati d'usine qui a remporté le sprint cet après-midi. Il a devancé les deux Gresini de son frère Alex et de Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo qui s'était lancé en tête sur sa Yamaha termine 4e, Johan Zarco 6e sur sa Honda. Francesco Bagnaia a lui chuté. Le Grand Prix de France MotoGP à suivre sur AMC demain à partir de 14h. Comme promis, retour à nos avant-matchs de Ligue 1. Cette course à l'Europe, c'est la belle surprise de cette saison, le Racing Club de Strasbourg qui se mêle à cette course aux places européennes. 6e avant cette journée, à 2 points seulement de la 2e place, le club alsacien en déplacement ce soir sur la pelouse d'Angers. Là aussi, un adversaire qui joue le maintien, même si bon, la victoire à Nantes dimanche dernier a donné un peu d'air au SCO. 14e avant cette journée, Angers-Strasbourg, ce sera avec l'immense Jérôme Sillon au commentaire. Salut Jérôme.
Salut Simon, salut coach, bonsoir salut à toutes Jérôme. Et à tous. Bienvenue au stade Raymond Coppa.
Ah, merci de cet accueil, on les aime ces soirées de printemps,
oh là
c'est
là
Madeleine
oh
de Proust pour tous les amoureux de football. On attend évidemment des buts du spectacle. Jérôme, je le disais, Strasbourg c'est en plus d'être la surprise de la saison, l'équipe en forme en ce moment, invaincue depuis le mois de février. On se prend à rêver en Alsace d'une qualification en Ligue des Champions, ça fait 45 ans que c'est pas arrivé.
Oui, c'était en 1979-1980, c'est la seule et unique participation du Racing à la Coupe des clubs champions à l'époque. C'était la saison qui avait suivi le seul et unique titre en première division, c'était en 1979. Évidemment, donc oui, on se prend à rêver de Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est plus du tout un mot tabou hein, depuis maintenant plusieurs semaines. Et Dylan Bacqua l'a encore dit cette semaine en conférence de presse. On en rêve de cette Ligue des Champions, cette petite musique entêtante qui fait rêver toute cette jeune génération strasbourgeoise qui, on le rappelle, a le plus jeune effet de Ligue 1, un peu moins de 23 ans de moyenne d'âge, et tu le disais, une dynamique complètement folle. Invaincu depuis 3 mois et 12 matchs. À l'extérieur, aucun but encaissé lors de leurs 5 derniers déplacements en Ligue 1. Et puis, si on élargit même un petit peu le spectre, depuis 5 mois, ils n'ont perdu qu'une seule rencontre. Et c'est tout simplement le Racing Club de Strasbourg-Alsace, la meilleure équipe de Ligue 1 en 2025, mieux que le Paris Saint-Germain. Alors, vous allez me dire, oui, les Parisiens ont encore un petit match en moins. Mais oui, Strasbourg a compilé 40 points depuis le début de l'année. Donc, c'est vraiment la surprise, parce que c'est vrai qu'en début de saison, il y avait quelques doutes. On se disait, cette équipe-là est trop jeune, cette équipe-là est trop inexpérimentée. Puis finalement, il s'est formé une dynamique qui dépasse même le cadre des garçons. Parce que vous savez que cette semaine, les filles de Strasbourg se sont maintenues en première division, en première ligue Arkema. Et les garçons et le staff de Liam Rosenior sont venus assister à cette rencontre à la Méno. Il y avait d'ailleurs pas mal de monde dans les travées du stade. Et les garçons sont allés saluer, féliciter les filles sur le terrain et dans le vestiaire à l'issue de la rencontre. Donc c'est tout un club qui vit une saison vraiment particulière.
Coach, c'est vrai qu'on s'est demandé toute la saison combien de temps le miracle strasbourgeois allait durer. Mais finalement, c'est du sérieux, malgré, Jérôme le rappelait, la jeunesse extrême de cet effectif. Et on pourrait même souligner l'inexpérience de Liam Rosenior, cet entraîneur qui s'est révélé avec des idées, de l'audace, des principes.
Les commentaires qu'on a pu faire, moi en premier, c'est l'inquiétude de voir un petit peu cette équipe de Strasbourg où les joueurs ne savent pas à qui ils appartiennent. Donc ils ont signé à Strasbourg, mais il y en a qui appartiennent à Chelsea. Mettre ça dans un vestiaire et mettre en place une équipe que nous voyons là depuis... maintenant une quarantaine de points. Cet entraîneur, on n'a pas le plaisir encore de le connaître, mais il n'y a pas besoin d'être détective. Si l'équipe de Strasbourg, dans un contexte particulier, avec des joueurs qui ne savent pas trop où ils seront la saison d'après, arrive à faire en sorte que Strasbourg joue aussi bien que ça, ça ne peut pas être avec un entraîneur moyen. C'est un très très bon entraîneur qui sera peut-être dans les années à venir un très grand entraîneur.
40 ans, Liam Rosenior, il est anglais, il était passé beaucoup par le Championship, la deuxième division anglaise, et c'est vrai qu'il a trouvé un tel épanouissement en Alsace qu'il a déjà prolongé son contrat, et il fait l'unanimité, hein. C'est vrai que cette semaine dans RMC Mercato, sur la chaîne Twitch et YouTube de RMC Sport, on a eu l'occasion de recevoir Sébastien Jiménez, entraîneur des gardiens du Racing Club de Strasbourg, et il nous expliquait qu'il y avait une harmonie complètement folle dans ce staff-là, et que même Jean-Marc Huens, l'un des historiques désormais adjoint de Liam Rosenior, eh bien voilà, il y avait vraiment une espèce de cohésion qui s'est créée, une bonne ambiance qui déteint. Et même Dylan Bakwa disait que dans le club cette année, il a jamais vécu ça. Alors il a une toute petite carrière, il a que 22 ans, Dylan Bakwa, mais c'est une bande de copains qui s'amusent sur le terrain et ça se traduit en résultat.
Et voilà, qui donne du crédit, si je peux utiliser cette expression, au projet Blouko, parce que bon, coach l'a sous-entendu, on est dans le cadre de la multipropriété, un consortium qui détient également Chelsea.
C'est pas simple psychologiquement.
Et dont on a deux joueurs prêtés, Jordi Petrovic et André Santos, qui sont deux des stars de l'équipe. André Santos qui est nommé pour le trophée du meilleur espoir, Jordi Petrovic qui est nommé au trophée NFP pour le meilleur gardien et qui est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 clairement. Donc oui, c'est vrai qu'il y a cette situation là, mais pour en avoir parlé encore une fois cette semaine avec l'entraîneur des gardiens, par exemple, Jordi Petrovic, il n'est pas du tout venu, alors qu'il a joué déjà une trentaine de matchs avec les Blues de Chelsea, il n'est pas venu à reculons à Strasbourg, il est venu pour montrer ce qu'il avait dans le ventre, pour continuer à progresser. Et le discours qu'on lui avait tenu, c'est que tu vas devenir l'entraîneur qui va toucher le plus de ballons en Europe pour un gardien de but. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un gardien qui participe énormément au jeu.
Et il passe après un sacré gardien aussi.
En plus.
Oui, et puis
tu parles de Matsels?
Ah oui. Donc là, je le vois encore ce qu'il fait en Angleterre.
On s'inquiétait lors de son départ.
C'est pas évident de remplacer ce gardien-là. Eh bien, il a réussi, il est arrivé. Donc j'ai dit, bravo, un grand coup de chapeau. Je ne pensais pas que Strasbourg puisse faire une saison comme ça.
Ah, Jérôme, 25 ans, hein, juste pour terminer, Petrovic, il a 25 ans et c'est le plus jeune des titulaires de l'équipe strasbourgeoise depuis maintenant de longues semaines.
Oui, je disais, Jérôme Sillon, au commentaire de ce Angers-Strasbourg, je précise à nos auditeurs et nos auditrices qu'on évoquera un petit peu avant 21h le cas d'Angers, qui fait partie de ces équipes dont le maintien n'est pas encore tout à fait assuré. Mais on poursuit un tout petit peu notre focus sur cette équipe de Strasbourg. Je le disais, la belle surprise de ce début de saison, on n'est plus au début de saison,
de cette saison,
toute cette saison, justement, qui a réussi à confirmer Avec un calendrier a priori, alors il faut rester prudent parce qu'il y a parfois des choses irrationnelles en fin de saison, a priori plutôt favorable puisqu'il y a ce déplacement à Angers et la réception du Havre lors de la dernière journée. Jérôme, tu soulignais la solidité défensive de cette équipe. Coach, là je vous pose la question à tous les deux. Il y a aussi ce qui n'apparaît pas dans les statistiques, des principes, je le disais, de ce Liam Rossignol avec cette jeunesse, des principes de jeu lorsque l'équipe a le ballon, quoi. Il y a quand même une c'est pas une équipe qui ne fait que défendre et qui
j'ai rarement vu une équipe aussi bien jouée dans tous les secteurs, avec des joueurs bien en place, des joueurs complémentaires, des joueurs bons techniquement. Les déplacements, eh ben, ils sont très emmerdants pour l'adversaire. Bon, sincèrement, je les regarde avec beaucoup d'attention et beaucoup de sympathie.
Oui, juste pour que nos auditeurs comprennent bien, Strasbourg, c'est une équipe hybride, c'est-à-dire qu'en phase défensive, Valentin Barco, l'Argentin prêté par Brighton, joue arrière-gauche. Et quand l'équipe a le ballon, Valentin Barco vient s'intégrer au milieu de terrain avec André Santos, qui permet à Diego Moreira et Dylan Bakwa d'occuper les ailes. Oui. Habib Diarra et Félix Le Maréchal, eux, viennent serrer autour d'Emmanuel Emega, et ce qui donne une équipe ultra-offensive en phase de possession. Donc c'est une équipe qui est vraiment capable de changer de formation et d'animation selon qu'elle a le ballon ou qu'elle n'a pas le ballon. Et ça, c'est aussi toute la force de ce qu'a mis en place Liam Rossignol cette saison.
Et parmi les joueurs que tu as cités, il y a quand même de sacrées découvertes, hein, et peut-être même pour les propriétaires de Blueco, de Chelsea et de Strasbourg, peut-être qu'ils ne voyaient peut-être pas ces joueurs performer aussi vite, aussi tôt. On va poser la question à Louis qui a fait le 32-16. Louis, supporter strasbourgeois, salut.
Salut les gars, ça va ?
Ah bah nous, ça va, ça va toujours avant les rencontres de Ligue 1 et notamment les multiplex sur RMC. Louis, jeune supporter strasbourgeois, tu m'en veux pas si je 21 ans, je crois seulement.
C'est ça, ouais, 21 ans, ouais.
Quelle folie quand même cette saison strasbourgeoise.
Ah ouais, là on est en train de vivre sûrement l'une des plus belles saisons de ces dernières années après celle de Julien Stéphan. Donc ça fait plaisir et surtout de dans un cadre aussi, on va dire, discuté par les supporters avec Blueco. Ils répondent sur le terrain avec leurs projets et puis c'est beau, ça fonctionne.
Est-ce que tu pouvais, est-ce que tu faisais partie des sceptiques parce que le projet Blueco, il a été très critiqué par beaucoup de supporters strasbourgeois qui, avant même...
Jusqu'à il y a quelques semaines,
voilà,
hein, d'ailleurs.
C'est ça.
Il y avait même des grèves d'encouragement. Il y avait des supporters qui ne voulaient pas encourager leur équipe parce qu'il y a cette copropriété avec Blueco. À la Méno, c'était pas toujours facile. Hein.
Et Louis, ouais, quand tu es supporter de Strasbourg en ce moment, ben, tu es déjà inquiet de ce qui va se passer dans quelques semaines pour renouveler le groupe. Est-ce combien il va y avoir de départs? Les départs, évidemment, si Chelsea a besoin de joueurs, ils vont pas choisir les mauvais.
Bah, a priori, André Santos habitera à Londres la saison prochaine. On peut l'imaginer. Louis, est-ce que
ça va dépendre de la qualif, ouais, hein, peut-être en Coupe d'Europe, parce que peut-être que Strasbourg sera dans une meilleure compétition européenne que Chelsea. Hein, ne l'oubliez pas.
une plus belle vitrine, en effet, pour mettre en valeur les joueurs. Louis, est-ce que tu es sceptique? Non, on verra en début de saison prochaine. Non, pour l'instant, j'imagine que tu es confiant, optimiste.
Ouais, confiant, optimiste. Et puis, c'est le moment d'y croire au projet, vraiment. Alors, j'ai entendu que vous parliez tout à l'heure de la grève des supporters. Il faut savoir qu'il y en a toujours, hein. Contre le Paris Saint-Germain, une partie du club strasbourgeois a toujours fait grève les 15 premières minutes. Et c'est pas apprécié de tous, hein, notamment dans la tribune dans laquelle je suis. Je sais qu'on est, il y en a plusieurs qui réclament le début des chants dès le début de la rencontre. Et puis Habib Diarra aussi. Je me souviens qu'à l'issue d'un match, il avait pris le micro pour réclamer les encouragements dès le début de la rencontre. Ce sont des négociations, mais qui n'ont pas abouti. Et puis, ouais, franchement, on parlait de quelques joueurs qui sont toujours sur les tablettes de Chelsea, qui appartiennent à Chelsea. Mais je pense qu'on a quand même un noyau assez costaud qui s'est créé cette année. Et puis, je pense que même au-delà de ça, de voir cette bande de potes s'amuser, tu vois, ça va peut-être aussi les convaincre de rester, tu vois, pour faire une saison en plus. En plus, tu joues une compétition européenne.
Ouais, mais c'est pas obligatoirement eux qui commandent ce qu'ils vont faire.
Non, mais bien sûr, ouais, mais ça, on va dire que ça peut convaincre aussi les joueurs dans le but de rester une saison en plus.
En effet, pourquoi pas, hein, Emmanuel Emega, l'avant-centre hollandais qui était arrivé entouré de beaucoup de promesses, qui a mis beaucoup de temps à confirmer les espoirs et la somme investi sur lui. On le voyait à l'instant là sur les retours qu'on a des avant-matchs sur la pelouse d'Angers. Il danse et il a des lunettes de rockstar et visiblement il y a une très très belle ambiance en effet pour souligner ce que tu viens de dire Louis entre entre les joueurs de l'effectif Strasbourg.
Vu son âge, sa marge de progression qui existe évidemment. On va quand même la suivre, mais s'il continue à progresser, que ce soit logiquement, ça va quand même dans 2-3 ans être un sacré attaquant.
Oui, avec un gabarit en plus un petit peu hors du commun, et 14 buts et 3 passes décisives cette saison en Ligue 1. Louis, très rapidement en un mot, on rêve de Ligue des Champions, mais même la Ligue Europa, ce serait déjà une satisfaction, ou il y aura de la déception si Strasbourg finit au-delà de la 4e place?
Non, faut s'en satisfaire. La Ligue des Champions, c'est le Graal, mais on va dire qu'on dépend aussi des résultats des autres. Nous, on va dire que Angers-Le Havre, normalement, alors je dis bien normalement, hein, ça doit être une formalité au vu des derniers résultats. En plus, on joue le dernier match à la Méno, donc les joueurs, ils vont être galvanisés. Mais ça dépend pas que de nous. On va dire que la Ligue Europa, faut savoir aussi s'en satisfaire. Pardon, on peut pas faire les fines bouches, quoi, ouais. Tu vois, on joue une compétition européenne, c'est déjà bien quand on voit tous les sceptiques qu'il y avait au début de la saison.
Ça fait 20 ans, hein, 20 ans, ouais, que Strasbourg n'a pas disputé une phase de groupe de Coupe d'Europe. Ouais, on se rappelle qu'il y avait eu il y a quelques années, après la 6e place sous Julien Stéphan, un barrage face à l'Eintracht Francfort.
Et pourquoi pas continuer à rêver, hein, tant que cette rencontre n'est pas encore disputée. Je le rappelais tout à l'heure, 6e avant cette rencontre, Strasbourg, à 2 points seulement de la 2e place. Quoi qu'il en soit, ce sera une magnifique soirée lors de la 34e journée à la Méno face au Havre. Merci beaucoup, Louis, d'être venu sur RMC partager ta joie et ton bonheur d'avoir déjà vécu une si belle saison avec Strasbourg, qui peut faire encore mieux tout à l'heure sur la pelouse d'Angers. Le coup d'envoi, comme toutes les autres rencontres en multiplex, à 21h. Jérôme, à tout à l'heure, on se retrouve un peu avant 21h pour évoquer le cas des Angevins qui sont pas encore tout à fait sauvés en Ligue 1. Tu nous donneras des raisons d'y croire pour les supporters du SCO. À tout à l'heure. Vous ne bougez pas, coach Courbis, jusqu'à 21h, on fait monter la température avant la 33e et avant-dernière journée d'une Ligue 1 dont vous ne manquerez, encore une fois, pas une miette sur RMC, vous le savez, vous ne bougez pas.
RMC, Intégral Foot,
Simon Dutin.
À 19h42, vous êtes au bon endroit sur RMC si vous ne voulez rien rater de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Elle se dispute en multiplex, 9 rencontres à suivre en direct, en intégralité, à partir de 21h sur notre antenne dans l'After Live autour de Jean-Louis Tour. Et d'ici là, nous, on se projette sur les enjeux, le suspense en haut et en bas du classement en compagnie de coach Courbis qui vous accompagne jusqu'à 21h. On a parlé de l'OM qui se déplace sur la pelouse du Havre. On a parlé de Strasbourg qui se déplace sur la pelouse de Angers. On va parler de clubs calibrés un petit peu de la même dimension, parce que derrière le PSG, cette course à l'Europe, elle concerne 6 équipes qui se tiennent en 5 points. Entre l'OM 2e et Lyon 7e, dont on parlera à 20h, l'OL qui se déplace à Monaco pour le choc de cette journée, on trouve Nice et Lille aux 4 et 5e places. Nice qui se déplace sur la pelouse d'un Stade Rennais 11e qui n'a plus grand-chose à jouer, sinon sa fierté et celle de ses supporters. Quatre figures un peu similaires pour Lille qui affronte Brest 9e au Stade Francis Leblay. Deux déplacements périlleux pour deux clubs qui pourraient bien finir la saison avec un sentiment de gâchis, surtout si ça se passe mal ce soir. On en parle avec Maxime Tilliette, notre correspondant RMC Sport sur la Côte d'Azur, et Aurélien Tercien, l'homme d'un peu partout, qui commentera le match du LOSC tout à l'heure. Salut les gars.
Salut à tous.
Salut Simon, salut Roland.
Salut les amis.
Salut Aurélien. Honneur à Maxime Tilliette, honneur à l'équipe qui est devant au classement, Nice 4e, je le disais, en déplacement au Roazhon Park.
Beaucoup. Pour,
Oui, écoute, il faut bien départager. Il faut bien vous départager.
La différence de but. Le 8-0 face à Saint-Etienne va peut-être compter.
Exactement, tout compte à 2 journées de la fin. Bon, il y a 2 façons, Maxime, de voir cette rencontre. Soit tranquille face à une équipe qui joue plus rien, je le disais. Soit pas tranquille parce que Rennes valait mieux. On sait que cette 11e place et va un petit peu mieux depuis que Habib Bey s'est assis sur le banc.
Oui, je vais pas m'avancer grandement en vous disant qu'ils la prennent pas à la légère, cette rencontre. C'est très clairement un match très important. Et d'ailleurs, Morgan Sanson, lui, cette semaine, nous disait au contraire se méfier peut-être davantage de ces équipes qui n'ont, alors entre guillemets, plus rien à jouer, même si il y a forcément des enjeux en interne pour la saison prochaine et plein d'autres raisons. Mais bon, quoi qu'il arrive, la saison en Ligue 1, je précise bien en Ligue 1 pour Nice, elle est quasiment déjà réussie pour la première année de Francaise, avec encore deux journées à disputer. Nice a déjà deux points de plus que sur l'ensemble de la saison passée. Nice est à la lutte, peut rêver de retrouver la Ligue des Champions que Nice n'a plus disputée depuis 1960, hein, tout de même. Donc ça remonte, hein. Je ne parle pas de barrage ou de tour préliminaire. On se souvient de l'Ajax et du Napoli sous Lucien Favre. Là, c'est vraiment d'intégrer la grande compétition. Ça remonte à 1960. Et d'ailleurs, Francaise le disait aussi devant la presse que le gym n'a ni la pression d'un actionnaire ou de la DNCG, comme quoi une qualif en Ligue des Champions serait vitale. Donc voilà, il faut bien négocier, ouais, puis... évidemment ces deux derniers matchs. C'est du bonus face à Rennes et face à Brest, qui n'ont certes peut-être plus grand chose à jouer au classement, mais qui ne seront sans doute pas totalement déjà en vacances.
Puis bon, contrairement à ce que peut être la saison de l'OM et de Strasbourg par exemple, les jeudis, eux, ils n'étaient pas devant la télé. Donc il y a eu quand même cette Europa League qui a été catastrophique, mais qui les a obligés à avoir beaucoup plus de matchs que Strasbourg et l'OM.
Donc, avec une infirmerie qui a longtemps été pleine, et oui, des joueurs qui ont dû forcer.
Avec tous ces matchs tous les trois jours, c'est sûr que ça augmente les possibilités qu'il y ait plus de blessés. Ça, c'est tout à fait logique. Et malgré ce, bon, ils sont encore en course à deux journées de la fin.
Maxime, toi qui as suivi l'OGC Nice toute la saison pour RMC, on a quand même l'impression qu'il y a eu deux parties dans la saison niçoise. Alors peut-être qu'il y a eu un effet de loupe causé par les contre-performances, et encore je reste gentil en Ligue Europa, parce ouais. que bon, Nice a pas fait un mauvais début de saison, mais on avait du mal à discerner les principes de Francaise dans la façon dont jouait cette équipe. Nice là qui reste sur trois victoires, ça va quand même beaucoup beaucoup mieux depuis janvier, que ce soit en défense, en attaque, dans la fluidité du jeu. Est-ce que je dis une bêtise?
Non, tu dis pas de bêtises, voyons. Et puis si c'était le cas, je ne me permettrais pas de dire ainsi.
S'il te plaît.
Non, mais c'est une équipe qui, voilà, elle est un peu surprenante tout de même. Des fois, c'est dur à lire et comprendre ce qui se passe. Il y avait eu un enchaînement sur fin février, début mars, où Nice avait pris 12 points sur 12. Et on s'était dit derrière, ils peuvent enchaîner, parce que en plus, c'était pas forcément dans leur habitude de faire le plein face à des mal classés. Et ils ont eu plusieurs opportunités de s'emparer de la deuxième place et ils ne l'ont pas fait. Il y a eu des points laissés en route, notamment à l'Alliance Riviera, alors que jusque-là Nice avait fait quasi un sans faute à domicile. Et puis là, c'est vrai que ça va un petit peu mieux depuis mi-avril et cette victoire face à enfin, je dirais même le match nul à Strasbourg, hein, qui a relancé un petit peu tout avec une égalisation d'Endai Chimier au bout du temps additionnel sur corner,
qui malheureusement,
et
ces trois victoires, donc s'est blessé quelques semaines après.
Et oui, tout comme Abdelmonem, il y a eu deux ruptures des ligaments croisés en l'espace de quelques jours côté niçois.
C'est quand même catastrophique, tu te rends compte, deux blessures aussi graves dans des joueurs qui sont dans le même secteur. Et malgré ce, ils arrivent encore à trouver des solutions.
Je dis
bravo.
Ouais, et puis c'est moins flamboyant, honnêtement, les succès, notamment les deux derniers à domicile face à Angers et face à Reims, ça a été par un but d'écart. Et honnêtement, sur les dernières minutes, il y a eu des situations d'égalisation où on n'a pas senti une grande sérénité du côté des Niçois. Mais force est de constater que ça fait 9 points sur 9 sur les trois dernières journées et que Nice est à la bataille et peut aller chercher quelque chose de gros. Et c'est sûr, ils vont essayer de surfer justement et de capitaliser sur ces victoires. Et peut-être qu'à ce moment-là de la saison, qu'importe la manière, tant que les points sont là, tant mieux.
L'OGC Nice qui se déplace sur la pelouse d'un stade rennais dont il faut se méfier, hein. On plaisantait tout à l'heure avec le coach en disant c'est pas bon de jouer une équipe qui joue l'Europe, c'est pas bon de jouer une équipe qui joue le maintien, c'est pas terrible de jouer une équipe de Rennes qui n'a plus rien à perdre et qui, bon, on est tous unanimes, bon, valait mieux que ce ventre mou, comme on dit.
Ouais, mais il faut se mettre d'accord, évidemment. Il y a des matchs, s'il y a un match entre deux équipes classées dans les six premiers ou deux équipes classées dans les six derniers, c'est vrai que ce match-là paraît plus important. Mais quel que soit le classement, je crois qu'il y a tout simplement des obligations professionnelles. Et si tu es Rennes, eh ben, tu préfères terminer 9 ou 10e que 12 ou 13e. Parce qu'en plus de ça, ben, il y a aussi, ben, une somme d'argent qui est un peu plus importante si tu es mieux classé. Et quand je parle d'obligations professionnelles, n'oublions pas que nous avons fait à ce niveau-là, ben, le métier de footballeur. Donc c'est une profession, et la profession, si elle te permet de terminer 11e plutôt que 12e, ben tu dois faire le maximum pour terminer 11e.
Voilà, et peut-être encore mieux en cas de succès rennais ce soir face à Nice. Merci beaucoup Maxime, on te retrouve à partir de 20h. Hein, tu t'éloignes pas trop parce que tu seras au commentaire de Monaco-Lyon. C'est le choc de cette 33e journée et on parlera de l'ASM avec toi à tout à l'heure. Aurélien Tarcin au commentaire de ce Brest-Lille. Aurélien, merci pour ta patience. Lille se déplace, le disait lui aussi, sur la pelouse d'une équipe qui ne joue plus rien, Brest en l'occurrence, qui ne joue plus rien en raison de son classement, mais qui devait faire mieux cette saison. Là aussi, méfiance pour les joueurs de Genesio.
Ouais, alors qui devait faire mieux, je sais pas.
Nous avait montré mieux, encore mieux la saison dernière. Voilà.
Bah oui, exactement. Bah alors en fait, deux équipes qui finalement ont plus marqué la saison en Ligue des Champions que sur le championnat français. Brest, malgré tout, avec sa 9e place pour l'instant, obtiendrait le meilleur classement de son histoire derrière la saison dernière. Depuis 89-90, donc c'est quand même une très belle saison réussie par les hommes d'Éric Roy. Il se passe quand même des choses intéressantes avec un Ludovic Hajor qui marque beaucoup de buts, 12 en Ligue 1. Donc il faudra se méfier évidemment de cette équipe de Brest, mais on l'a vu il y a quelques semaines au Vélodrome, notamment à Marseille, ça a été relativement compliqué dans la première demi-heure pour les Marseillais, mais ensuite quand les buts ont commencé à tomber, à être marqués, c'était plus compliqué pour les Brestois de s'accrocher mentalement. C'est toujours la difficulté pour ces équipes-là.
Eux aussi, est-ce que moi, tout coupé, il y a quand même eu un calendrier avec cette Champions League qui a été tout simplement extraordinaire, avec une certaine malchance, j'ai l'impression, et on peut le comprendre, qui les a dégoûtés, c'est de tomber contre le Paris Saint-Germain en match aller retour. Tu fais la Champions League, c'est pas pour tomber contre le Paris Saint-Germain. Bref, donc nous avons quand même cette équipe de Brest qui, aujourd'hui, a du mal un petit peu à terminer, beaucoup de blessés, et là aussi ils n'ont pas fait le même championnat que Strasbourg, que l'OM. Ils ont quand même, avec un effectif de qualité mais de quantité moyenne, ils ont fait pour moi une saison encore extraordinaire.
Et oui, mais je voulais enchaîner là-dessus, coach, t'as raison, parce que Chardonnay et Lesmelou sont suspendus, Amavi, Koulibaly, Fèvre, Le Cardinal, Mama Baldé, tous blessés, absents pour ce match. Donc effectivement, c'est quand même ultra pénalisant pour Brest. Et dans ce contexte-là, on peut penser quand même que les Lillois, s'ils sont réalistes et sérieux ce soir à Le Blé, tu peux quand même avoir de bonnes chances de t'imposer. Surtout que la tribune Quimper, où il y a les ultras habituellement, sera fermée. Donc un stade qui va petit peu moins pousser. Et Lille peut toujours compter, coach, sur Haraldsson, sur Jonathan David, même s'il y a aussi, là aussi, André et Bafodé Diakité suspendus tous les deux. Donc là aussi, deux grosses pertes, mais Lille, sur le papier, a quand même les armes pour venir s'imposer sérieusement ici.
Et c'est la folie de notre métier, parce qu'évidemment, l'an dernier, à la même époque, on parlait de miracle pour le Stade Brestois, et en effet, moi le premier, je me vautre dans la critique, ou en tout cas, je fais la fine bouche après la belle saison brestoise, tu l'as souligné, Aurélien. Méfiance donc pour les Lillois, gagner à Brest, ce n'est jamais facile. Bruno Genesio en conférence de presse, avec la fatigue accumulée par cette longue saison, la manière, on s'en fiche un petit peu, ce qui compte c'est le résultat.
Je vais essayer d'amener mon expérience, puisque dans beaucoup de clubs où j'ai coaché, on a toujours bien fini les saisons. Donc je vais essayer d'aider le LOSC à faire de meilleurs derniers matchs que ce que ça a été le cas les deux dernières saisons notamment. Meilleurs résultats plutôt, pas de meilleurs matchs.
Voilà, coach, il a raison, Bruno Genesio, si ça gagne 1-0 avec un CSC, on prend.
Absolument, surtout qu'il est très bien au courant qu'il sort d'un match très moyen avec un match nul qui est tombé du ciel contre l'OM. La physionomie du match, c'était 2 buts d'écart pour l'OM minimum. Et là, avec toutes les absences, il en a lui aussi, mais les absences de Brest, l'objectif, c'est justement de gagner à Brest pour rattraper un petit peu ce match moyen et ce match nul à domicile contre l'OM. Donc on va suivre s'ils en sont capables. Mais quand on parle d'absent et d'absence, c'est sûr que cet attaquant côté droit, Zegrova, qui évidemment a passé toute la saison pratiquement à l'infirmerie, ça c'est quand même une grosse perte.
Le Zébulon de l'aile droite lilloise, en effet, dont l'absence a cruellement fait défaut au Lillois cette saison. Avant de te libérer, Aurélien, un petit mot sur les conditions climatiques. Tu l'as rappelé, le stade ne sera pas à guichet fermé. C'est dommage quand même pour une dernière.
Il y a eu des problèmes cette saison avec les ultras sur les derniers matchs. Ils étaient suspendus déjà pour la réception de Montpellier il y a deux semaines. Et donc, encore une fois, ce soir, malgré tout, deux petites banderoles accrochées, notamment une saison légendaire pour notre anniversaire. Merci de nous avoir rendu fiers. On revient à la belle saison, malgré tout, des Brestois, même si on espérait pour eux peut-être un petit peu mieux en championnat. Et ça va tonner. C'est le fameux tonnerre de Brest qu'on a entendu il y a quelques secondes. Et a priori, ça va pleuvoir au moins en première mi-temps. Ah. Mais bon, voilà, ça pourrait être des conditions un petit peu dantesques. On va voir ça.
Oui, bon, de la pluie pour des Lillois.
Oui, en Bretagne, normalement. Bon, oui, aussi, t'as raison, coach.
Ça va.
Et tout ça sans le capitaine ad hoc, mais avec Aurélien Tiercin au commentaire de ce Brest-Lille, l'une des affiches de cette 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Une affiche qui compte, on l'a dit, pour la course à l'Europe. Pas tout à l'heure, Aurélien. Avant de se quitter quelques instants, petit détour par Rome, le Masters 1000 dans la capitale italienne. Eric Salio, le retour de Yannick Sinner qui se passe plutôt bien face à Navone, le bien nommé quand on joue à Rome.
Ah oui, non, 1-7-0 pour Yannick Sinner. L'impression qu'il n'y a rien à changer chez ce garçon, malgré les 3 mois d'absence.
Oui, il déroule son tennis. Long, quoi.
Ouais, voilà. Il a pris quelques petites vacances. Et c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, non. La longueur de balle impressionnante, il maîtrise tout. Donc 6-3. On va surveiller quand même sa condition physique. C'est encore un petit sujet de questionnement. Mais en tout cas, pour l'instant, il est parfait. 6-3, Sinner.
Bon, désolé pour la patate chaude, il y a quelques résultats notables dans les qualifiés, les éliminés du jour.
Bah, dans le tour féminin, il y a eu une grosse surprise, c'est Gaziantep qui a encore été battue tout à l'heure. Elle n'arrive
plus
à gagner.
Est-ce que c'est encore
un
une surprise, oui, d'ailleurs
Non, c'était une surprise.
Eric, parce qu'elle est moins en forme qu'il y a quelques temps, notre amie polonaise.
C'est une surprise.
Elle est en crise.
Quand elle a gagné.
Elle est en crise et elle va entamer la défense de son titre à Roland-Garros avec beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. En plus, elle prend des taux, là. Tout à l'heure, c'est Daniel Collins qui l'a malmené en deux manches. On sait qu'à Madrid, elle a pris 6-1, 6-1 contre Coco Gauff. Elle est en crise, la polonaise. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, côté italien, les qualifications de Matteo Berrettini et de Jasmine Paolini. Quand on a une locomotive comme Sinner, comme par enchantement derrière, ça roule tout seul.
Bon, c'est bien parti en tout cas pour Yannick Sinner qui fait son retour à la compétition après sa suspension de 3 petits mois pour dopage. Eric Salio qui nous tient au courant de l'évolution du score. Vous ne bougez pas, 19h57, on poursuit dans quelques instants notre tour des stades et nos focus sur les enjeux, le suspense, les questions soulevées par cette 33e et avant-dernière journée de Ligue 1 dont vous ne manquerez rien à partir de 21h, les 9 rencontres en multiplex dans l'Afterlife. D'ici là, nous on revient dans quelques secondes à peine, vous ne bougez pas.
RMC, Intégral Foot,
Simon Dutin.
Il est 20h, vous êtes bien sûr RMC, on poursuit notre tour des stades, on fait monter la température avec les enjeux, le suspense autour de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Vous n'en avez rien manqué cette saison, vous ne manquerez rien ce soir, les 9 rencontres à suivre en direct en intégralité sur RMC à partir de 21h autour de Jean-Louis Tour dans l'Afterlife. D'ici là, on se projette, je vous le disais, sur la course à l'Europe et la lutte pour le maintien en compagnie de coach Courbis, Roland, qui a vécu des courses pour le titre, pour l'Europe et la lutte pour le maintien. C'est quoi le plus éprouvant, coach, pour un entraîneur?
la réponse, elle est quand même difficile à dire. Non, c'est totalement différent quand tu as un effectif avec la possibilité de construire tes victoires parce que cet effectif est de qualité, de grosse qualité, et tu prépares tes matchs différemment. Et quand tu as comme objectif le maintien, c'est que tu as un groupe un peu plus moyen. Et à ce moment-là, la préparation des matchs et la construction justement de ce qu'on va faire contre cet adversaire, c'est en premier temps de l'emmerder et de l'empêcher de jouer. Donc ça fait deux choses totalement différentes. Même si tu fais le même métier, si l'objectif c'est de terminer dans les 3 premiers, ça veut dire que tu as l'effectif pour. Et si l'objectif c'est de ne pas terminer dans les 3 derniers, ça veut dire que tu as un effectif limite.
Avec, on le rappelait, hein, pas de préférence entre affronter une équipe qui lutte pour ne pas descendre ou une équipe qui lutte pour jouer la Coupe d'Europe l'an prochain. Eux joueront en Ligue 1, mais on le savait déjà, la saison prochaine, c'est Lorient qui a assuré le deuxième titre de champion de Ligue 2 de son histoire après sa victoire tout à l'heure au Moustoir 5-1 face à Martigues. Le club martégal qui est relégué du coup immédiatement en national.
Malgré un parcours superbe dans la deuxième partie, parce qu'ils ont démarré la saison sans jouer chez eux, ils ont joué même à Guignon, Martigues.
Ça fait un problème de Martigues,
à Guignon. Et là, ben, avec nouvel entraîneur Malek, il y a eu un parcours extraordinaire. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour se sauver.
On a vu de belles choses, malgré tout, tu fais bien de le souligner, du côté de Martigues, et peut-être des promesses pour la saison prochaine. Ce sera en national, malheureusement, pour ses supporters. Metz, troisième à l'issue de cette dernière journée, attend de connaître son adversaire. Ce sera le vainqueur du play-off entre Dunkerque, quatrième, et Guingamp, qui prend donc la cinquième place et voilà, qui disputera le droit de jouer l'accession face au FC Metz en cas de victoire face à Dunkerque. Tous ces résultats, évidemment, sont à retrouver sur le site RMC Sport. .fr. Retour sur notre course à l'Europe et plus précisément à la Ligue des Champions, enfin pour au moins un des deux clubs qu'on va évoquer, parce que c'est le choc de cette 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Monaco-Lyon, ASMOL, comme vous préférez. Un classique au stade Louis II, c'est ce soir à 21h. Les Monégas, 3e à 1 point de l'OM, reçoivent des Lyonnais, 7e à 5 points de la 2e place. Avantage a priori aux joueurs d'Adi Hutter. Ils ont gagné à Saint-Etienne le week-end dernier, pendant que Lyon perdait à la maison face à Lens. On se projette sur cette affiche avec l'homme du Sud, Maxime Tillette, que l'on retrouve, qui nous a attendu et qui commentera la rencontre. Rebonsoir, monsieur Tillette. Et bonsoir, monsieur Edouard G, notre correspondant dans le Rhône, spécialiste de l'OL, pour évoquer les Lyonnais. Salut, Doudou.
Salut Simon, salut coach,
salut
Maxime.
Salut Doudou.
Rebonjour à tous.
Salut Edouard. Il n'y a pas une catastrophe supplémentaire comme il y en a de jour en jour?
Non.
Alors après, tout dépend à quel moment tu as arrêté à quel épisode tu as arrêté le feuilleton de la semaine.
Avant-hier, une rétrogradation qui devient de plus en plus sérieuse, voire même certaine.
Oui, plus les bruits au niveau de l'UEFA, plus des échanges de lettres ouvertes de John Textor envers les supporters, la réponse de Jean-Michel Aulas aujourd'hui, la réponse de John Textor. Bref, les coulisses sont un peu chaudes, quoi, en fait.
Voilà. Et le communiqué et le fameux communiqué du propriétaire américain de l'OL qui se voulait être un extincteur et qui s'est transformé en lance-flamme. On aura l'occasion, exactement, évidemment, d'y revenir. Le spectre des sanctions financières et administratives liées au mauvais état présumé des finances de l'OL. Messieurs, place au terrain. En attendant, avec cette affiche aussi excitante qu'indécise à Louis II, Maxime, on commence avec toi, parce que Monaco ne doit pas se couper ce soir. C'est la seule équipe de cette course à l'Europe qui reçoit ce soir, qui plus est, on le rappelle, face à un adversaire direct.
Oui, Monaco peut enfoncer le clou et écarter définitivement Lyon, hein, sur qui il y a déjà 4 points d'avance. Monaco qui en plus à Louis II est sur une très belle dynamique, hein, aucune défaite depuis début avril. Ça fait 6 victoires et 1 nul, donc 19 points sur 21 si mon calcul mental ne me trahit pas. Et donc voilà, avec des gros succès en plus, assez probants face à Nice, face à Marseille, ici même. À l'extérieur, ça a été plus délicat en revanche, ça c'est certain. Mais ça, l'extérieur, ce sera pour la dernière journée, ce sera le déplacement à Lens qui ne sera pas de tout repos pour les Monégasques, qui en plus gardent de mauvais souvenirs d'une dernière journée à Bollaert, qui avait vu Lens égaliser à la dernière minute et envoyer l'OM directement en Ligue des Champions et l'ASM en tour préliminaire et en barrage. Donc voilà, il faut confirmer le renouveau monégasque, on va dire, avec cette victoire acquise à Saint-Etienne le week-end dernier, ce succès 3-1. Il y a un Mika Biret qui était sorti, il y a Geoffroy Guichard dès le quart d'heure de jeu. Alors, qui est bien présent.
Il est de retour, t'as les compos, même... je crois déjà.
Exactement. Eh ben, on va y aller pour les compos.
Allez,
et donc Mika Biret est bien titulaire. Zou avec donc dans les buts côté monégasque, Philippe Keun, la défense de droite à gauche avec Jordan Tézé, Wilfried Tsingo et Thilo Kehrer qui retrouve une place dans l'axe. Il a réglé ses problèmes au genou. Caio Henrique est lui latéral gauche. Au milieu de terrain, le capitaine Denis Zakaria associé à Lamine Camara. Sur les ailes, Minamino et Akliouche en soutien donc de Mika Cabirets et de Brel Mbolo. Follarim Balogun, lui, est forfait, touché à la cheville lors du dernier entraînement de veille de match. Côté lyonnais, une surprise, c'est la présence de Ryan Cherki sur le banc de touche. Le meilleur passeur de Ligue 1 qui ne démarre pas cette rencontre pourtant très importante. Et donc, on le sait également, Corentin Tolisso, lui, est forfait, mais pas de dernière minute. Donc, la composition peut-être en 4-4-2 losange avec Lucas Perry dans les buts, la défense à 4, Maitland Niles, Clinton Mata, Moussa Niakate et Tagliafico à gauche. Au milieu, ce qui nous donne Nemanja Matic avec Tesman, Verretou, plus un Thiago Almada qu'on imagine un cran au-dessus en soutien d'Alexandre Lacazette, le capitaine, et de Malik Fofana.
Edouard G, on n'y comprend plus rien. Avec Cherki, on s'y attendait. Cherki sur le banc pour un match qui peut se révéler aussi décisif.
Maintenant, attention, sur le banc, c'est pas dans les tribunes.
Il va
pas démarrer le match. Si ça se trouve, il va rentrer, il va apporter un petit plus et être décisif. Mais c'est vrai, je te rejoins. C'est quand même surprenant. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes du côté de Lyon. Ce que fait le coach de Lyon, c'est quand même un gars compétent qui est rentré de Milan avec des bosses. Donc, et c'est sûr que c'est pas simple du tout d'arriver en cours de match dans un
cours de saison dans un
effectif qui justement était en train de faire une très bonne saison. Alors, est-ce que maintenant cette élimination contre Manchester, elle sera très difficile, pour ne pas dire impossible, à être digéré. Cette défaite contre Lens, alors là, c'était pas prévu. Le derby perdu contre Saint-Etienne, elle est perdue avec cette décision, carton rouge, pas carton rouge. Donc, ce qui fait quand même une certaine inquiétude quand tu es supporter de Lyon.
Edouard, tu la comprends là, cette compo lyonnaise? Enfin, on parle évidemment Cherki sur le banc, si on pouvait s'y attendre.
Non, absolument pas. Mais après, moi, je fais toujours confiance aux techniciens qui ont les joueurs sous les yeux. Parce que nous, on voit rien. On voit un quart d'heure d'échauffement l'avant-veille des matchs. Et alors peut-être que la semaine n'a pas été bonne. Peut-être qu'il a une petite alerte aussi. On l'a vu qu'il a vraiment le match du 17 avril à Manchester, là, qui dessine vraiment le tournant de l'année. C'est 415 secondes là où tout s'est envolé. Lyon menait 4-2 et puis finalement 415 secondes plus tard, ça fait 5-4. Il est allé au bout de lui-même sur ce match-là. Le derby derrière, il n'était absolument pas présent. Lens, on sentait physiquement qu'il était à bout. Donc, c'est vrai que dans la logique un petit peu de ce que l'on voit dernièrement, ce n'est pas forcément une surprise, même si c'est quand même quelqu'un qui peut à tout moment te faire gagner, trouver une passe que personne ne va trouver, te faire un geste que personne ne va pouvoir faire. Mais c'est vrai qu'il est plutôt en pente douce descendante au niveau forme physique sur les derniers matchs. En tout cas, c'est ce que l'on ressent depuis ce fameux match de la mi-avril à Old Trafford.
Le faux plat descendant pour la forme. En effet, Ryan Cherki, donc remplaçant au coup d'envoi de ce choc sur la pelouse de l'AS Monaco. Puisqu'on parle compo et qu'on parlait de Strasbourg tout à l'heure, ça vient de tomber. Emmanuel Emega, l'avant-centre néerlandais de Strasbourg, est forfait. On le voyait goguenard, hilar sur la pelouse avec ses copains. En avant-match, alors peut-être qu'il a trébuché dans le couloir pour rentrer au vestiaire.
Sérieusement, on sait pas ce qu'il a.
Écoute, les infos à suivre, évidemment. Jérôme Sillon est allé à la pêche et vous les retrouverez à l'antenne ou sur le site rmcsport.fr. Mais Emmanuel Emega, le meilleur buteur strasbourgeois, qu'on voyait encore une fois à la reconnaissance du terrain, tout sourire avec ses copains, ses lunettes et son casque sur les oreilles, ne jouera pas à la rencontre sur la pelouse du SCO d'Angers. Une des 9 rencontres à suivre de cette 33e journée tout à l'heure à partir de 21h sur RMC. Tu parlais de Paulo Fonseca tout à l'heure, coach. Il s'est exprimé évidemment en conférence de presse avant la rencontre, entraîneur de l'OL. Il parle de cette course à l'Europe avec on sent un petit peu d'ironie. Bon, il sous-entend que cette course à l'Europe elle est un petit peu faussée, même s'il nous précise qu'il comprend.
Cette saison est un peu particulière aussi. Parce que nous avons 7 équipes qui peuvent arriver à la Champions League. C'est pas normal. Une surprise que PSG a perdu avec Nice et a perdu avec Strasbourg. Et c'est pas un critique. Ferait le même avec la Champions League.
Bon, oui, les équipes qui font tourner, qui se ménagent pour la Ligue des Champions. Alors, ils visent le Paris Saint-Germain.
Oui, mais là, on peut pas, si tu veux.
C'est sympa, mais bon. Oui.
Parler de ça dans le sens que si le Paris Saint-Germain peut et a pu se permettre justement de perdre ces matchs-là, alors qu'ils auraient bien aimé ne pas les perdre, puisqu'il y avait cette série d'invincibilité qui était assez sympa. C'est tout simplement s'ils peuvent faire ça parce qu'ils ont des tas de points d'avance. Donc là, c'est maintenant compliqué de pouvoir dire à ce moment-là les équipes qui rencontrent Montpellier aussi. Donc ce sont des équipes qui sont avantagées. Non, il y a des tas de choses que tu peux pas revenir pour. Si je suis Lyon, si je dois sélectionner. Une situation qui vraiment m'a fait mal au ventre, c'est ce qui s'est passé dans le derby contre Saint-Etienne, et c'est ce qui s'est passé à 4-2 quand tu t'embrasses comme des fadas, que tu te déconcentres complètement, oui. Tu fais le tour du stade, peut-être même de la ville si on t'avait laissé faire, et en plus tu jouais à 10 à 12 minutes de la fin. Mais je le dis et je le répète, ça il faut lui dire à Fonseca, si des fois il a pas vu, eh ben on peut quand même se permettre de lui dire quelque chose. C'est tout simplement une faute professionnelle. Donc je ne vois pas autre chose. Une faute professionnelle.
Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est le sens de ton message. Coach Lyon qui aura une occasion ce soir d'effacer tous ses mauvais souvenirs en cas de victoire face à une ASM. Maxime, ce sera ma dernière question. Ah, pour qui ce serait quand même catastrophe de rater la Ligue des Champions, l'ASM qui jouait pas de Coupe d'Europe cette saison. J'imagine que...
La Ligue des Champions.
Qui jouait avec des champions cette saison.
Ils en ont fait des matchs tous les trois jours.
Mais ce serait catastrophique si l'ASM ratait la Ligue des Champions.
Oui, très clairement, parce que Monaco était sur le podium depuis de très longs mois, a même tutoyé la seconde place sur certaines journées avant de la laisser échapper. Il se dit de plus en plus que l'avenir d'Adjuteur serait conditionné à un top 4, voire la Ligue des Champions direct. Voilà. Après, c'est une manière un peu récurrente à Monaco de mettre la pression, avec notamment la présence du président à l'entraînement avant les matchs importants. Mais c'est une manière, voilà, de mettre la pression et de montrer que ces deux dernières journées, elles sont très très importantes pour cette ASM.
On a envisagé depuis très longtemps le Paris Saint-Germain premier, et Marseille et Monaco deuxième et troisième. Il y a de grandes chances que ce soit ça.
Voilà, c'est la saison passée.
Il y en a de grandes que ce ne le soit pas aussi. C'est assez ouvert. C'est fou d'en être là le 10 mai. On est sur une telle indécision.
Ben ouais, mais bon, on va suivre ça. Il n'y a que deux matchs encore, et donc. Je ne serais pas surpris que Monaco et l'OM soient deuxième et troisième.
Victoire obligatoire, en tout cas, comme on dit, pour l'ASM. Et malheureux vaincu, voilà. Ouais. Évidemment, Maxime Tillette, au commentaire de ce Monaco-Lyon, c'est le plus gros choc, la plus grosse affiche de cette 33e journée de Ligue 1. Monaco, la seule des six équipes en course pour l'Europe, derrière le PSG, qui reçoit ce soir. À tout à l'heure, Maxime, merci beaucoup.
À tout à l'heure.
Édouard, d'être passé par l'intégrale foot.
Toujours un plaisir.
Et évidemment,
bonne soirée à vous.
Un plaisir partagé.
Salut.
Sur l'antenne de RMC. On accueille Nassim qui a fait le 32-16. Bonsoir Nassim.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Nassim. Supporter de Lyon, est-ce qu'on y croit encore pour l'OL?
L'équipe est capable de battre quasi n'importe qui. Mais le problème, c'est va-t-on y arriver? Je pense qu'on a un peu trop souffert. Moi, j'ai un peu trop souffert cette saison. Je préfère me dire qu'on va pas gagner. Et puis après, si on gagne, on aura une bonne surprise. Mais sur les quatre matchs qui nous permettaient d'accéder au top 4 pour jouer la Champions, trois fois, on n'a pas gagné. On n'a pas su mettre dans les positions pour être bien placé. Donc, pourquoi ça changerait là? Après, la saison dernière, c'était un miracle, hein. On jouait pas l'Europa League, on jouait rien, et en 5 minutes on est passé de rien à l'Europa League dans les 5 dernières minutes, parce qu'il y avait des résultats sur les autres pelouses qui ont fait, c'était Lens je crois qui avait fait un mauvais résultat. Donc oui, on espère toujours, mais cette équipe, elle manque de leadership, elle a manqué trop souvent de sérieux, de concentration, d'expérience. Pourtant, Tolisso, Lacazette, il y a un certain nombre de joueurs qui étaient là pour ça. Pour faire le truc en plus qui fait que, et ben voilà, tu t'es dans les bonnes conditions. Voilà, Saint-Étienne, pour moi, c'est pas normal. On peut pas perdre un derby comme ça. Le match de la semaine dernière aussi, j'ai pas compris.
La défaite à la maison.
Voilà, pareil, c'était là, on était dans le money time. Et toutes ces erreurs qu'on a vues tout au long de la saison, ces petites erreurs, c'est des petits riens, hein, où on domine, mais on marque pas. Moi, j'ai joué au foot, le coach, il disait tout le temps, si vous marquez pas, si vous manquez d'envie. C'est bien de se mettre en position de frappe, c'est bien de, voilà. Mais il y a un moment, faut la mettre dedans. Tant pis, c'est avec c'est peut-être un ventre.
Peut-être hein. Tu manques plutôt de précision et de qualité. Donc, tu aurais envie,
ouais,
tu aurais envie de manquer.
Ouais, mais moi, si t'arrives à te mettre en position, parce que cette année, Lyon, on a des joueurs qui sont assez bons techniquement, tu t'es mis en position pour mettre des buts. Mais voilà, t'as trop souvent, pas frappé assez fort, ou le gardien à la sortie. Voilà, ce manque de rage, tu vois, que t'as dans plein d'autres équipes, nous, qui nous a manqué, tu vois, je trouve.
Je comprends ce que tu veux dire, mais bon, moi, je réfléchis peut-être différemment, parce que j'ai quand même été longtemps entraîneur. Et quand tu as une équipe avec des occasions, tu sais qu'après, quand tu parles du match dans l'après-match avec tes joueurs, ben tu leur dis tout simplement, continuons à nous créer ces occasions-là, et maintenant il va falloir être beaucoup plus méchant pour que ça se transforme en but. Et là, ben c'est quand même une énorme différence. Mais est-ce qu'on est d'accord sur le fait que ce qui s'est passé à 4-2 à 12 minutes de la fin, à Manchester ou à United, et ces embrassades de
fans. Ah oui, mais coach, on va pas revenir à
moi. Non, mais je demande, parce que j'ai l'impression peut-être d'être sévère. Donc, est-ce qu'on est d'accord?
Nassim, très rapidement, tu le renvoies aux Lyonnais, à leur entraîneur d'avoir.
Alors, en fait, moi, le premier point, c'est qu'à la mi-temps, il y a 2-0. Hein, le match, il est réglé. Personne ne nous voit qualifié.
C'était déjà un miracle, ouais. Ouais.
Déjà. Enfin, voilà. Après, il y a eu plein de choses. Mais autant le miracle, c'était de notre côté, on a réussi à gagner 4-2. Mais autant ils ont eu le miracle, ils ont égalisé. Je suis d'accord. Mais voilà, Tolisso, il ne doit pas prendre ce deuxième jaune. Et on ne doit pas prendre ce but nous à la 45e minute. Non, mais voilà, c'est pour ça que moi, j'en veux pas sur ce moment-là. C'est sur un match aller-retour, il y a plein de choses qui sont passées où, encore une fois, comme je dis, on a manqué de rigueur. À Lyon, tu peux pas prendre un but dans les arrêts de jeu à la 45e minute.
Mais Nassim, on en revient toujours à la même chose. Le jeu appelle l'erreur et l'émotion appelle la faute. C'est l'histoire du football.
Et c'est ce qui fait qu'on aime le football.
Sinon, on n'aurait que des 0-0 et on s'ennuierait. Bon, le coach serait content parce qu'il aime bien jouer les matchs nuls, mais il préfère quand il y a des buts pour chaque équipe.
Non, si c'est match du 3-3.
un peu plus indulgent que Nassim pour les performances d'un Noël qui pourrait donc sauver une partie de sa saison. Pas si mauvaise que ça quand même en cas de victoire ce soir sur la pelouse de l'ASM. Merci beaucoup Nassim et bon match. On te le souhaite ainsi qu'aux supportrices et supporters lyonnais. Je le disais, c'est le choc de cette 33e journée. Affiche aussi indécise qu'excitante. On va voir si on peut gagner un petit peu d'argent autour de cette rencontre.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et pour ça, normalement, on s'appuie sur les conseils d'un expert en paris sportif, mais on n'avait que Johan Bretov sous la main. Désolé, salut Johan.
Salut Simon, salut coach, salut à tous.
Salut Johan.
Qu'est-ce que tu as dans la besace? Je plaisante, évidemment. Tu es immense sur
Paris.
Je suis
exceptionnel sur les paris. Monaco est largement favori, tiens. Ça peut être intéressant d'avoir les cotes. C'est 1,80 seulement, j'ai envie de dire, la victoire monégasque. 4,30 le match nul et c'est 3,75 la victoire de Lyon. Donc on peut s'attendre déjà à un beau match. Le 0-0, j'y crois pas trop.
Non.
Déjà, les deux équipes qui marquent, c'est seulement 1,34. Donc on s'attend.
C'est acheté par le coach Courbis. Ça, je peux parler à
34, c'est pas énorme.
Avec Monaco qui perd pas.
J'ai pas bien compris. Tu es surpris de la cote de Monaco?
Non, 1,80,
le fait qu'elle soit si basse. Ouais, je trouve qu'elle est basse, moi. 1,80.
Mais c'est.
Enfin, ça reste un Monaco-Lyon. Hein.
Ils ont perdu qu'une fois à domicile cette saison.
Oui, alors.
C'est
Lyon, en fait.
Non, mais.
1,80, si on joue 1,80, enfin la victoire de Monaco et les deux équipes qui marquent, c'est 2,50. La victoire de Monaco et Biret, c'est 2,90, coach.
Ben ouais, moi je suis un peu plus prudent. Monaco qui perd pas avec les deux équipes qui marchent. Et je rajoute Akiyush décisif et Biret buteur.
Ah oui, d'accord.
T'as fait une cote à 5,010.
Ben voilà, il a bossé pour les paris RMC, le coach évidemment. Merci beaucoup Johan, ses coachs et les autres à retrouver sur le site rmcsport.fr et sur celui de notre partenaire.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
20h21, vous ne bougez pas. L'intégral foot revient dans un instant. Avant de parler de la lutte pour le maintien, on va s'intéresser quand même aux champions. Déjà champion, le Paris Saint-Germain, qui se déplace sur la pelouse de Montpellier avec un effectif de 20 ans et 4 mois de moyenne d'âge. Lucien Riquet, qui a emmené 4 joueurs de 17 ans sur la pelouse de Montpellier, autour de laquelle il y aura très peu de supporters parisiens. Les membres du CUP, le collectif Ultra Paris, qui boycottent cette rencontre en raison du faible nombre de places attribuées aux supporters parisiens. On en parle avec Roland Courbis et vous au 32-16 dans un instant. Vous ne bougez pas.
RMC Intégral Foot,
Simon Dutin.
Ce soir de multiplex, 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Tous les amoureux de ballon adorent ces soirées. On est en compagnie de Roland Courbis, notre consultant, pour faire monter un petit peu la température avant le début des 9 rencontres à suivre en multiplex. Donc, à partir de 21h dans l'After Live autour de Jean-Louis Tour. Vous nous appelez au 32-16, venez partager vos craintes, vos espoirs, vos doutes, vos rêves au sujet de votre club avant cette journée qui concerne pour l'Europe et le maintien quasiment toutes les équipes du classement, allez, quasiment pour être gentil, mais on a que des belles rencontres à suivre et on continue d'en parler avec vous. On n'oublie pas le Paris Saint-Germain parce que, même s'il est déjà champion avec 19 points d'avance ce soir sur le deuxième, on a au contraire un œil plus qu'attentif sur les performances parisiennes jusqu'à cette finale de Ligue des Champions. Ce sera face à l'Inter le 31 mai prochain à Munich. Paris qui va dévaler tout le classement pour aller défier Montpellier, Lanterne Rouge déjà relégué. Ça se passe évidemment à la Mosson, sous les yeux de Romain Asselin, qui sera au commentaire de cette rencontre. Salut Romain.
Salut Simon, salut coach.
Salut Romain.
Alors Romain, la question côté parisien, c'est on fait quoi? On fait tourner, on garde une ossature de titulaire habituel? Alors on a déjà eu une partie de la réponse avec le groupe par Luis Enrique pour ce déplacement. Quelle est la compo alignée ce soir par l'entraîneur espagnol?
Écoute, il y aura deux joueurs qui étaient titulaires contre Arsenal qui seront reconduits dans le 11 de départ, en l'occurrence Bradley Barcola et Désiré Doué. Et ça va être intéressant d'avoir ton avis aussi, coach, là-dessus, parce que Luis Enrique a décidé d'aligner 4 attaquants ce soir. Doué, Gonzalo Ramos, Barcola, mais également le jeune Titi Ibrahim Mbaye, qu'on avait déjà vu contre Strasbourg, 17 ans. Il y aura certainement l'autre Titi, Axel Tap, qui va glisser en défense centrale avec Beraldo et Lucas Hernandez. Une petite surprise dans les buts, non pas Safonov, qu'on pouvait attendre à la place de Donnarumma, mais l'Espagnol, Arnaud Tenas.
Ah, il récompense peut-être pour la saison en tribune.
Et puis au milieu, Kang In-Lee, Seni Mayulu, qu'on commence à avoir l'habitude de voir, et Warren Zahir, Emery pour conduire la Betoua. T'en penses quoi, coach?
Là, tu nous as donné 4 attaquants plus 3 milieux.
Ouais. Et je pense qu'il va jouer en 3-4-3.
Ouais.
J'ai bouffé qui?
Non, mais je pense que des garçons comme Doué et Barcola, ils peuvent très bien se replacer et défendre. Non, je la trouve équilibrée et je la trouve même, malgré les absences importantes, je trouve qu'elle a de la gueule.
Donc, avec Varad Skelia sur le banc, qui rentre peut-être en cours de partie. Pas Dembélé, mais ça on le savait déjà parce qu'il n'était pas dans le groupe, même s'il est venu s'entraîner au campus cette semaine. Il n'était pas dans le groupe qui fait le déplacement.
C'est logique, cette prudence.
Avec, je le disais, des infos à retrouver sur le site rmcsport.fr, 20 ans et 4 mois de moyenne d'âge pour les 19 joueurs retenus par Luis Enrique pour cette rencontre. Alors certes, il y a des joueurs à reposer, mais tout de même, c'est un petit peu audacieux de la part de Luis Enrique. Ça te surprend, ça, coach?
Mais audacieux dans le sens, qu'est-ce qui peut...
4 joueurs de 17 ans dans le...
Qu'est-ce qui peut leur arriver?
C'est le moment, donc. Mais réponds-moi, non, tu dis des bêtises. Moment parfait pour lancer ces jeunes.
C'est une revue d'effectifs avec des jeunes qui sont peut-être en instance de signer une prolongation de contrat ou tout simplement un contrat et de les récompenser de tout le travail qu'ils ont pu faire pour faire des progrès. Bon, je trouve que c'est très bien. Et sincèrement, dans le métier d'entraîneur, qui est quand même un métier passionnant, mais compliqué aussi, je crois que beaucoup d'entraîneurs, moi le premier, auraient aimé avoir cet effectif et se permettre dans les deux dernières journées de jouer avec 4 voire même 5 jeunes de 17 à 19 ans. C'est tout simplement extraordinaire.
Et Romain, ce sera, on le disait, donc à la Mosson, face à une équipe de Montpellier déjà reléguée. Quelle est l'ambiance à Montpellier, un peu plus d'une demi-heure du coup d'envoi? Est-ce qu'on va quand même... voilà, faire la fête face aux champions de France ou bon,
c'est tristouné. Hein.
Ouais,
non. Ah non, franchement, c'est tristouné. Non, tout le monde s'est fait une raison. De toute façon, ça fait des semaines qu'on sait que Montpellier va descendre en Ligue 2. Non, franchement, même si c'est le PSG qui vient, et puis bon, c'est pas le PSG All-Star. Donc tout le monde est résigné. Il y a pas d'ambiance dans la rue. Enfin, je veux dire, voilà.
Moi, tu sais que
total, quoi.
Tu sais que j'attache beaucoup d'importance et ce club ne me fait pas laisser indifférent et je serai jamais indifférent, mais c'est pas de descendre que je suis le plus déçu, c'est de cette façon là c'est-à-dire oui. Avec ce nombre de points, ce nombre de buts à encaisser, mais c'est sincèrement, c'est tout simplement abominable.
Alors voilà qui va te donner redonner le moral pour les Montpellierains, coach. Je le dis avec un petit peu d'ironie. Non, le PSG, c'est sur le site rmcsport.fr hein, qu'on pêche les meilleures infos, évidemment. Le PSG qui a remporté chacun de ses 11 derniers matchs contre Montpellier en Ligue 1. 33 victoires face à Montpellier dans l'élite, 19 nuls, 13 défaites. Montpellier qui a encaissé 41 buts lors de ses 10 derniers duels contre le PSG en Ligue 1. C'est le plus haut total de buts concédé par une équipe lors de 10 matchs consécutifs à un même adversaire dans l'histoire de la Ligue 1. Voilà,
c'est terrible.
De quoi donner du baume au cœur, voilà, aux quelques supporters montpelliérains qui sont à la Mosson ce soir pour cette rencontre. Rencontre boycottée par le collectif Ultra Paris. Voilà, je le précise, Romain, qui était fâché contre la préfecture de l'Hérault pour le faible nombre de places mises à disposition du club parisien. Oui.
Ouais, juste préciser que Luis Enrique est dans la continuité de ce qu'il a fait face à Strasbourg. Il y a une semaine, c'est-à-dire que t'as que deux changements dans le 11 de départ. Finalement, c'est Joao Neves qui démarre sur le banc, à Safonov aussi, et donc Arnaud Tenas et Désiré Doué. Mais sinon, c'est globalement le même 11 de départ.
Avec cette attaque d'Ouembaï, Ramos, Barcola, tu l'as rappelé. Merci beaucoup.
On a déjà vu pire hein, comme attaque dans une équipe de football. Mal,
oui, ça, il y a de quoi effrayer les supporters montpelliérains et les joueurs du MHSC. Merci beaucoup, Romain. On te retrouve à 21h au commentaire de ce Montpellier Paris Saint-Germain. Avant de poursuivre notre course à l'Europe, non, qui est bientôt terminée, de s'intéresser à la lutte pour le maintien, on va retourner au stade Océane où nous attend Christophe Lécuyer qui va commenter la rencontre entre Le Havre et l'OM. Salut Christophe.
Salut, bonsoir à tous.
Salut Christophe.
Christophe, si on vient te voir à une demi-heure du coup d'envoi, c'est que les compos sont officiels, notamment celle de l'OM.
Ouais, le 11 très attendu, hein, évidemment, aligné par Roberto De Zerbi, avec pas vraiment de surprise visiblement, hein, compte tenu des forces en présence, évidemment. Évidemment, Rulli sera dans les buts ce soir. Cornelius et Balerdi qui portera le brassard de capitaine en défense, avec Ulysse Garcia et Murillo sur les côtés. Rongier et Højbjerg devant cette défense, avec Rowe et Greenwood évidemment pour épauler Adrien Rabiot qui sera dans une position un petit peu plus axiale. Et puis l'homme en forme du moment, c'est Amine Gouiri. Évidemment, il sera aligné à la pointe de l'attaque marseillaise ce soir. Voilà le 11 de départ du côté de l'Olympique de Marseille.
Avec quatre défenseurs qui, je pense, n'ont jamais joué dans cette formule. Donc. À 4, oui, mais ces 4 défenseurs-là, je crois que ça ne s'est jamais passé.
Mais Christophe, la patate chaude, elle est pour toi. Hein.
Oui, non, évidemment, oui. Alors, effectivement, c'était un petit peu attendu quand même. Hein, effectivement, cette composition alignée par Roberto de Zerbi, même si effectivement il y avait cette alternative possible, mais il a opté pour cette défense à 4 avec Cornelius et Balardi. Juste un petit mot quand même, parce que c'est pas dénué d'intérêt du côté du 11 avré, hein, bien évidemment, du côté de Didier Digard, parce que là aussi il y a un fort enjeu ce soir pour les Normands.
Ouais,
équipe sans surprise, hein, alignée par Didier Digard, avec Youté et Sanganté, le capitaine dans l'axe de la défense. Balotouré et Nego seront les deux excentrés. Abdoulaye Touré, Mwanga dans l'axe du milieu de terrain, avec Yacine Keshta, l'international marocain, Josué Casimir et Issa Soumaré, qui auront une mission ce soir, celle de donner de bons ballons à l'homme de pointe, qui sera André Ayou, aligné à la pointe de l'attaque à Brest ce soir.
Le Havre 16e et actuel barragiste qui lutte pour le maintien. Cette lutte pour le maintien, on en parle avant 21h avec toi Christophe, qu'on retrouvera du côté du stade Océane. Je vous le disais, il y a peu de rencontres qui ne recèlent pas d'enjeux dans cette 33e journée de Ligue 1. Celle-ci en fait partie.
Le TFC qui reçoit Lens au Stadium sous les yeux du GOAT, Jeannot Rességuet. Salut Jeannot.
Bonsoir Simon, bonsoir coach, bonsoir tout le monde.
Voilà, un peu d'enjeu dans cette rencontre. Mais
pas d'enjeu du tout même.
C'était pour te ménager.
Mais si, non, attends, on va pas se mentir. Préserver la 8ème place pour les Lensois, ouais. En regardant ce qui va se passer entre Brest et Lille. Des Lensois qui restent sur 2 victoires à l'extérieur, donc plutôt à l'aise dans leur déplacement. Des Toulousains qui sont 12e et qui ont connu enfin, lors de la précédente journée, une victoire au Stadium sur l'année 2025 et qui veulent finir en beauté et donc récompenser leur public par leur fidélité. Plus de 25 000 de moyenne depuis le début de la saison et pourtant ça n'a pas toujours été folichon au Stadium. Toulouse, pas de modification d'équipe, si ce n'est que Cresswell est suspendu. Le retour de Soiseau, d'Abouklal et de Babika, trois absents face à Rennes, et Abouklal depuis longtemps, puisqu'il s'était re-blessé du côté de Reims. Mais ça ne bouge pas au niveau de la compo d'équipe, à part, donc, je vous disais, la suspension de Caceres. Du coup, reste dans les buts Mackenzie, Sidibé et Kanvo pour la défense à 3. Kamanzi reste titulaire à gauche, Soiseau donc débutera sur le banc. À droite, Donoum, Caceres, Siro pour le milieu de terrain, King à gauche, Gbo à droite et Magri en pointe. Voilà pour les choix de Carles Martinez-Novel. Pour ce qui est de Will Steel, il ne bouge pas son équipe. Vainqueur à Lyon sur le score de 2-1. Mathieu Ryan, le gardien australien. Grady bat Medina pour la défense à 3. Le jeune Pouilly sur le côté droit. Machado, un ancien Toulousain lors de la saison 2020-2021 en Ligue 2, sera titulaire à gauche. Mendy, Thomasson et El Hanaoui pour le secteur du milieu de terrain. Et Koyalipou, l'attaquant buteur ces derniers temps, accompagné de Diouf. Voilà pour les choix du coach lensois. Bastien de Chépy sera l'arbitre de la rencontre. Et juste une petite parenthèse, à Toulouse, c'est un week-end lensois, puisque demain à 15h, les filles en seconde ligue vont jouer la montée face au leader, le Racing Club de Lens. Elles sont troisième, juste derrière l'Olympique de Marseille. Les deux premières monte en première ligue.
Le beau week-end de foot dans la Ville Rose, Toulouse-Lens, avec Jeannot Rességuet au commentaire. Mais fais-toi Jeannot, ce genre de match entre deux équipes qui jouent plus rien, ça peut se finir à 4 partout, hein, cette histoire.
Mais c'est ce que j'allais te dire finalement, voilà. En conclusion, on nous annonce un orage au moment du coup d'envoi, et si on avait une pluie de buts, ça serait pas mal. C'est-à-dire, ça me permettait d'intervenir plus souvent, parce que
bravo,
très honnêtement,
oui, la pluie de buts,
c'est pas le match qui va exciter du monde ce soir.
Ah, méfie-toi. Bon, en tout cas, on sera évidemment ravis de te retrouver au commentaire de ce Toulouse-Lens, coup d'envoi comme les 8 autres rencontres de cette journée, à suivre en multiplex. À tout à l'heure, Jeannot, vous ne bougez pas, coach Courbis, toujours en studio pour évoquer dans un instant la lutte pour le maintien. On va commencer par Saint-Étienne qui se déplace sur la pelouse d'un stade de Reims qui ne joue plus rien. Les Verts qui sont dans la zone rouge et ils ont une peur bleue de redescendre en Ligue 2.
RMC Intégral Foot.
Simon Dutin.
20h36, vous êtes bien sur RMC si vous ne voulez rien rater de cette 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Vous avez fait le bon choix, mais ça vous le saviez. Intégral Foot jusqu'à 21h et le coup d'envoi du multiplex dans l'After Live autour de Jean-Louis Tour. On est toujours en compagnie de coach Courbis pour se pencher désormais sur cette lutte pour ne pas descendre. Elle concerne plusieurs équipes. J'ai dit à l'instant que le Stade de Reims ne jouait plus rien. Alors bon, le Stade de Reims est 13e et pourrait encore finir barragiste. Méfiance. Je parle sous le contrôle d'Arnaud Valadon, que je retrouve, le régional de l'étape, comme on dit au stade Auguste Delaune. Salut Arnaud.
Salut Simon, salut coach, salut Arnaud. À tous. Ah, je peux te dire que côté Rémois, il y a quand même de la fébrilité, parce qu'il n'y a que 2 points d'avance pour le Stade de Reims sur le Havre barragiste. Et en face, on a Saint-Té qui joue clairement sa survie et qui pourrait se retrouver en Ligue 2 dès ce soir.
Oui, en effet, parce que si Le Havre ne perd pas contre l'OM et que Saint-Étienne s'incline, je crois que les carottes sont cuites.
C'est même juste, si tu veux résumer, c'est si Saint-Étienne ne fait pas mieux tout simplement que Le Havre. Il y a 4 points d'écart.
C'est vrai qu'on va même oublier que Reims va jouer la finale de la Coupe de France.
Alors justement, Arnaud, il y a cette fébrilité quant au maintien en Ligue 1. J'imagine que ça reste la priorité et que hors de question de se projeter sur cette finale de Coupe de France du 24 mai prochain.
Clairement, ce sont les propos de Samba Diawara, le coach du Stade de Reims, qui a vu les deux dernières sorties de son équipe un peu en dilettante. Ils ont fait 0-0 à Montpellier et ça, le coach n'était pas du tout content parce que dans l'envie, ils n'ont pas réussi à aller chercher une victoire à Montpellier, alors que non pas que c'est 3 points offerts, mais ils pouvaient aller chercher la victoire, c'est Rémois. Et il y a cette défaite la semaine dernière face à Nice, 1-0. C'est encore deux matchs où le Stade de Reims n'a pas marqué après une victoire contre le Toulouse qui avait fait du bien, et contre Lens aussi. C'est vrai qu'à domicile ça va un peu mieux pour les Rémois, deux victoires sur les trois dernières réceptions, mais il faut rester concentré, ne pas penser à ce match de gala, cette finale de Coupe de France le 24 mai. Il y a encore un petit peu de chemin, c'est dans deux semaines, surtout que la semaine prochaine, si Reims n'est pas sauvé ce soir, il y a un déplacement à Lille, ouais, qui peut s'avérer très périlleux.
Bon, en même temps, il y a des équipes derrière Reims, hein, et tout le monde va pas forcément gagner ce soir. Donc,
on verra ça.
Mais c'est deux points, c'est quatre équipes en deux points, c'est serré.
C'est vrai que tu peux être angoissé si tu restes.
Et on comprend en effet l'anxiété des supporters et de la direction et des joueurs rémois. Bon, face à Reims ce soir, Arnaud, c'est une équipe de Saint-Etienne qui n'a plus le choix. Il faut gagner, et pour ça il va falloir se débrouiller sans Stassin, son meilleur buteur. Ça s'annonce, enfin, encore un caillou de plus dans la chaussure stéphanoise.
Ah, de toute façon, il faut gagner pour espérer non pas repasser devant le Havre, mais s'offrir une dernière journée avec la réception de Toulouse où tout serait possible pour les Stéphanois. Mais tu l'as dit, Stassin blessé, touché à l'ischio. Son entraîneur a dit qu'il était en phase de réadaptation. Stassin, je regardais sur les derniers matchs, sur les 11 derniers matchs de Saint-Etienne, sachant qu'il n'a pas joué le dernier, c'est 7 buts marqué Stassin sur 14, c'est 50% des buts.
C'est énorme
l'attaquant belge qui avait fait des miracles. Et là, c'est Wadji qui est titulaire pour Saint-Etienne ce soir dans poste de numéro 9. Et surtout, Saint-Etienne, faut pas l'oublier, c'est que deux victoires depuis qu'Éric Corneland est venu. C'est le derby et c'est Reims lors de la 16e journée en janvier dernier. Donc peut-être que ça va porter bonheur aux Stéphanois avec le parquage qui n'est pas totalement rempli, mais plus de 1500 supporters ont fait le déplacement pour soutenir les Verts et croire au maintien.
Ça inspire les Stéphanois, et ça va peut-être motiver à l'inverse les Rémois qui voudront leur revanche. Coach, est-ce que t'es déçu globalement par la saison de Saint-Etienne pour son retour en Ligue 1?
Oui, comme tout le monde. Mais je suis déçu aussi de la période de Noël de ce mercato. Je pensais qu'à la tête de Saint-Etienne, il y avait un gars, et je le pense toujours, avec un petit peu d'argent, capable de réaliser qu'une descente en deuxième division, ça coûte une fortune. Et alors qu'avec quelques efforts pour récupérer 3-4 joueurs de qualité, sans que ce soit des joueurs avec des prix astronomiques. Mais j'ai pratiquement rien vu. Je me suis dit, bon, sincèrement, ils ont une confiance énorme que je n'ai pas, moi.
Et j'ajouterais, Arnaud, je parle de ton contrôle, quoi. On a entrevu à l'arrivée d'Éric Corneland un changement dans le jeu, dans les principes mis en place, mais qui ne se sont pas forcément traduits par d'aussi bons résultats que vous pouvez espérer.
C'est trois victoires, hein. J'ai oublié le succès à Montpellier avec ce match arrêté où Saint-Etienne menait 2-0. Le problème, c'est que oui, il y a des buts avec des matchs spectaculaires, le 3-3 contre Angers notamment, le 3-3 contre Brest, mais ils prennent trop de buts et ils ont une différence de buts de moins 39. Alors t'en as pris 6 contre Paris, 5 contre Marseille, le Havre c'est moins 30, ça fait presque un point d'écart à l'arrivée, ce qui rend forcément la tâche des Stéphanois très compliquée. En tout cas pour la compo, Éric Corneland n'a effectué qu'un seul changement par rapport à l'équipe qui a perdu contre Monaco, sans être ridicule, mais il y a quand même cette défaite 3-1 au Chaudron. La composition avec Larsonneur dans les buts, Nadé, Bernauer en défense centrale, Appia à droite, Petro à gauche, Tardieu et Kouamouefek au milieu, Cardona, David Ajvili, deux éléments offensifs primordiaux, et Wadji donc qui est titulaire devant pour les Stéphanois.
Bon, coup d'envoi de ce Reims Saint-Etienne assez indécis à 21h avec Arnaud Valadon aux commentaires.
Sincèrement, je vais le regarder avec beaucoup d'attention. Ce match, je serai incapable de pronostiquer.
Donc, très difficile à pronostiquer. On va demander son avis à Romain, supporter de Saint-Etienne qui a fait le 32-16. Salut Romain.
Salut, bonsoir à tous.
Salut Romain.
Oula, il a la voix du mec résigné.
Un peu
d'espoir,
en fait.
Romain.
Oui et non, en fait, mais c'est, pour moi, c'est ce match qui gère tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Havre, ils jouent Marseille et ils reçoivent Marseille et ils vont à Strasbourg. Ce qui potentiellement peut être de défaite pour eux. On peut presque dire qu'on a notre destin entre les mains pour aller chercher au moins un barrage. Donc, mais bon, Reims, c'est pas un morceau facile en ce moment. D'ailleurs, Nice en a eu du mal la semaine dernière contre Reims. Donc voilà, c'est là où moi j'ai un peu de mal. Je me dis que ça va être dur d'aller gagner à Reims. De toute manière, on a notre place. 69 buts encaissés, pire défense de Ligue 1. C'est déjà un miracle qu'on puisse encore se maintenir. Bon, voilà, c'est moi j'y crois, mais
c'était ma question.
Il y a un petit coin de ma tête qui se dit voilà. J'ai pas trop envie d'y croire pour pas être déçu aussi.
Bon, et en cas de mauvais résultat, en cas de descente, je veux pas vous porter la poisse, mais qu'est-ce qui sera ton principal regret pour cette saison? On rappelle où Saint-Étienne faisait son retour en Ligue 1. Saint-Étienne était promu.
Le mercato hivernal.
Ah ben.
Tu vois, d'accord. Parce que je vais te dire un truc. Apia, c'est pas le niveau Ligue 1. Petro, ça a pas le niveau Ligue 1. Nadé, tout juste. Bernauer, on va dire tout juste, mais avant t'avais Batou Benfica, c'est pareil. En fait, à la trêve, tu vas même pas chercher un central alors que c'est la pire défense de Ligue 1. Déjà, et un latéral, il y a un moment t'as oublié ton mercato hivernal, quoi. Par se disant qu'il y a du pognon en plus derrière.
Donc, écoute,
on verra. Après, il y a beaucoup. Est-ce qu'on se raccroche aussi à l'espoir qu'il y a beaucoup de clubs qui sont en danger financièrement?
Moi, il y a beaucoup d'équipes que je regarde avec toujours la passion que j'ai. Et ce qui se passe à Marseille avec cette Mbemba qui a quand même eu une dispute avec ses dirigeants et qu'il n'est pas question de le faire jouer du côté de Marseille. Je ne sais pas si
l'OM
n'aurait pas été d'accord pour le prêter.
Mais aurait été d'accord pour la Saint-Etienne.
C'est la bonne question d'une réponse que je n'ai pas.
Et ça, en effet, de toute façon, tous les observateurs ont leurs propres idées, leurs propres recettes et il faudra instruire, en effet, le processus de décision des dirigeants stéphanois qui devaient réagir, qui ont tenté quelque chose avec Hornoland. Juste en un mot, Romain, oui ou non, Hornoland, on garde la saison prochaine, on mise...
De toute manière, je pense que oui, parce qu'il y a j'aimerais le voir avec des joueurs qui vont avec ses idées, parce qu'il a des idées plutôt offensives, plutôt de presser haut, parce que il y a notre classement, mais on est vraiment loin d'être l'équipe la plus nulle à regarder.
Il a des idées
avec... Sont intéressants.
Il a des idées qui, malheureusement, il n'a pas les joueurs pour pouvoir
les mettre en place.
Bon, même si Saint-Etienne misera sur le Géorgien Zourico, David Tachvili, c'est l'homme en forme, de but 3 passes D.
L'ami de Gvara.
Exactement, le copain.
Pas mal du tout, celui-là.
Merci beaucoup.
Quand il veut bien la lâcher.
Écoute. En tout cas, c'est l'un des meilleurs joueurs stéphanois cette saison et la SSE qui comptera sur lui pour tenter de ramener un résultat du Stade de Reims. Auguste Delaune, Arnaud Valadon, au commentaire de cette rencontre. À tout à l'heure. Arnaud, merci beaucoup. Romain, et à bientôt sur l'antenne de RMC. Vous ne bougez pas, 20h45. Dans moins d'un quart d'heure, le coup d'envoi du multiplex de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Il nous reste le temps de s'intéresser aux autres équipes concernés par le maintien. On en parle dans quelques secondes à peine.
RMC Intégral Foot.
Simon Dutin.
Dans un peu plus de 10 minutes, c'est le coup d'envoi de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. 9 matchs à suivre en multiplex sur notre antenne dans l'After Live. Ce sera autour de Jean-Louis Tour. Évidemment, vous ne manquez pas une miette de cette saison de Ligue 1 qui recèle encore du suspense pour la course à l'Europe. Et la lutte pour le maintien dont on va parler dans quelques secondes. Le temps pour nous de faire un petit détour par Rome, la capitale italienne, la ville éternelle où nous attend Eric Salio. Eric, Yannick Sinner faisait son retour après 3 mois de suspension pour dopage. Le pêcheur a pêché sa première victoire.
Oui, 6-3, 6-4 pour Yannick Sinner. Un match contrôlé de bout en bout avec quelques petits temps faibles. Allez, on va ergoter un petit peu, mais concrètement là il a été très bon. On voit qu'il avait bien préparé son affaire et là vous l'entendez peut-être, le public va le saluer parce qu'il va parler dans quelques secondes au micro de... Attention là monsieur, non, lui il est en train de tout saboter. Putain, excusez-moi, il y a un monsieur là qui a fait n'importe quoi.
Dis donc.
Il a failli emporter mon matos. Il est bête en plus, c'est un italien sûrement. Allez, j'ai eu très peur parce que là il a failli tout emporter. Et vous l'entendez, donc Sinner qui est ovationné. Il va parler au micro de Diego Narzino qui est le speaker officiel. Donc 6-3-6-4, on le reverra lundi face à l'oculuseur néerlandais, j'espère, de Jong, 93 mondial. Bon, pour l'instant, c'est bien balisé son retour. Hein.
Tranquille. Bon. Voilà, le retour au bureau qui s'est bien passé pour l'Italien Yannick Sinner. Merci beaucoup, Eric.
À bientôt.
Et bonne soirée dans
salut
la
capitale. Mais bon, il a fait tout emporter le monsieur.
Oui, alors t'énerve pas, hein, pas de bagarre. Hein, tu représentes la maison quand même à Rome, doucement quand même, hein, de la diplomatie. Merci beaucoup, Eric. Comme promis, on retourne à notre lutte pour le maintien. Il nous reste quelques minutes en compagnie de Roland Courbis et de nos envoyés spéciaux, donc commentateurs sur les différentes rencontres qui concernent encore cette lutte. Je parle de Auxerre-Nantes, Le Havre-OM, Angers-Strasbourg, Fred Joly à la Baie des Champs, Christophe Lécuyer au stade Océane, Jérôme Sillon au stade Raymond Coppa. Bonsoir ou rebonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Messieurs, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. On reprend une formule qui a fait la renommée de RMC. Vous allez nous donner chacun à nos auditrices et aux auditeurs une raison de croire au maintien de l'équipe concernée que vous suivez ce soir. Christophe Lécuyer, pourquoi Le Havre va se sauver?
Parce que Le Havre n'a jamais lâché cette saison, parce que les Havrais étaient condamnés il y a quelques mois, mais ils vont mieux. Ils ont pris 10 points sur les 6 dernières journées de championnat, avec un nul ici même contre Monaco il y a quelques semaines et une victoire à Auxerre. Didier Digard a été chahuté, mais il a toujours gardé le cap. Et puis surtout, Didier Digard et les Havrais pourront compter sur un stade plein ce soir. Match à guichet fermé, 23 000 supporters dans une ambiance de dingue. Donc évidemment, on y croit côté Havrais.
Christophe Lécuyer au commentaire de Le Havre OM, il a été persuasif. Jérôme Sillon, pourquoi Angers va se sauver?
Parce que Angers est invaincu face à Strasbourg cette saison. Une qualification en Coupe de France à la Méno, un nul en Ligue 1 à la Méno également. Donc Angers à la recette pour prendre des points, au moins un ce soir face à Strasbourg, et donc consolider sa place de non-relégable. Et puis les Angevins se sont imposés à Nantes le week-end dernier. Ils ont sans doute fait le plus dur, ils ont le cœur plus léger.
Convaincant également, Jérôme Sillon, au commentaire de ce Angers-Strasbourg au stade Raymond Coppa. À tout de suite, Jérôme. Fred Joly, pourquoi Nantes va se sauver?
Pourquoi Nantes va se sauver? Parce que les Nantais, sur le papier, en tous les cas, ils ont une fin de championnat, la fin de championnat la moins compliquée. Ils sont à Auxerre ce soir, ils joueront Montpellier lors de la dernière journée. Mais attention, du côté de la Giosa, Christophe Pélissier est un peu fâché après le non-match face au Havre. En tous les cas, les supporters nantais ont fait le déplacement en masse. 660 supporters sont tassés dans le parcage nantais, un stade à Baie des Champs plein à craquer. Plus de 17 000 spectateurs pour assister à ce Auxerre-Nantes.
Convaincant également, Fred Joly, au commentaire de ce Auxerre-Nantes à la Baie des Champs. Coach, il va falloir trancher qui va se sauver. Nantes, Le Havre, Angers, ou les trois, si on en croit nos commentateurs?
Ben oui. Donc
c'est pas bon signe pour Saint-Étienne. Hein.
Bah c'est bon. En cas de descente de Lyon, ça serait pas eux qui seraient sauvés. Donc c'est difficile pour Saint-Étienne. Évidemment que je souhaite me tromper parce que j'ai beaucoup de potes qui adorent les Verts.
T'as des copains partout, toi, hein, toi,
ouais,
France,
bon,
hein.
Sincèrement, je vois pas comment.
Bon, Nantes, Angers et Le Havre vont donc se sauver, si on en croit nos commentateurs qu'on retrouve dans un instant. Début de réponse dans quelques secondes avec l'intégrale foot, l'after live, que dis-je. C'est autour de Jean-Louis Tour et le Réfé qui prend les platines du studio RMC dans un instant pour un multiplex toujours aussi excitant chaque année. Salut Jean-Louis.
Ah, salut Simon, salut tout le monde. Oui, on va se régaler. Avec ces 9 matchs en même temps, salut, c'est Jean-Louis. À la fois, salut coach, la folie du foot, de la Ligue, mais aussi de la radio. 9 matchs en même temps, on n'a plus ça à la radio, donc on va se régaler. On sera partout, vous ne raterez rien des enjeux sportifs de cette avant-dernière journée de Ligue 1. Et puis il y a souvent des belles histoires, certains joueurs qui font leur adieu sur ces dernières journées. On vous raconte tout ça sur RMC avec ces 9 rencontres en direct et cette passionnante course à la Ligue des Champions.
Et c'est pour ces soirées qu'on aime le foot et qu'on fait ce métier, mon cher Jean-Louis. Je vous souhaite un bon multiplex, les 9 matchs de cette 33e et avant-dernière journée de Ligue 1 à suivre en direct et en intégralité sur RMC, où le sport en live, l'info et le débat ne s'arrêtent jamais. Salut.